On fait un travail avec François depuis 2 ans d'approfondissement de la tripartition sociale. Et on a déjà fait plusieurs ateliers, on a fait aussi des séminaires. L'année dernière, on avait organisé une conférence qui était sur le thème du sol, du foncier. Et là, on a souhaité faire une conférence plutôt sur la tripartition sociale de manière plus large, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Et François, donc, il est aussi membre de l'Institut pour la tripartition en Allemagne, à Berlin, avec qui il collabore depuis 3 ans.
Non, bah, j'ai commencé en traduisant les pages du site. Il y a déjà maintenant, ça fait bien 5 ans maintenant.
D'accord. Ouais. Donc l'activité principale de François, c'est de traduire un certain nombre de textes en français et allemand qui ne sont pas traduits. Et il a commencé depuis peu à faire un peu d'édition. Donc là, les petits recueils qui sont présentés sur la table, ils sont à la vente. Donc c'est des petits recueils thématiques sur les thèmes de cette action. Donc n'hésitez pas à en prendre quelques-uns si ça vous intéresse.
Il y a le prix derrière, ça dépend desquels, quoi. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins épais, il y a des conférences isolées qui font 3 euros, et après on grimpe 5, 6, 7, jusqu'à 15, ça dépend. Il y a le livre de Johannes, il est à 15.
Voilà, je te cède la parole.
Voilà, donc je vous ai préparé une petite feuille pour que vous ayez les thèmes qu'on va aborder. Et au dos, vous avez une référence en ligne où vous pouvez, ensuite, si vous voulez vous repencher là-dessus, vous retrouverez le déroulé qui a indiqué là, mais avec les extraits que je vais vous lire, enfin que je vais vous présenter, quoi. Ça permet de revenir dessus et puis de les replacer dans leur contexte, parce qu'en fait je ne vais pas lire tout, quoi, hein, mais juste des choses que j'ai sorties pour disons qu'on a commencé aussi un travail de lecture dans nos rencontres et puis par Skype régulier, systématique, sur un site de conférence, et c'est ça qui m'a donné l'idée, quoi, parce que une lecture commentée, ça peut être aussi assez intéressant, en fait, quoi. Donc vous verrez comment j'essaye de faire ça, et donc j'ai essayé de construire ça là-dessus tout en finalisant les brochures, les 4 brochures auxquelles je fais référence, en fait. Voilà, ça fait une espèce de pack, et puis ça permet de concentrer le travail, quoi, parce que là, maintenant, je suis venu au bout des 9 collections que j'ai traduites de l'allemand pendant les 5 dernières années, et je reprends au début pour une relecture, parce que maintenant, je suis plus à l'aise dans les thèmes, ce qui me permet, alors, d'une part, de trouver ce qui, de toute façon, était déjà illisible au début, mais j'ai quand même plus de facilité, parce que là, je peux mieux trancher sur le contenu plus fin, quoi. Et donc, ça tombe bien, quoi, puisque j'ai justement construit la conférence sur ce travail aussi en même temps, quoi. Donc, on essaye d'être efficace un peu, quoi. Voilà, de pas trop se disperser non plus. Parce qu'avec la triarticulation, on pourrait se disperser pas mal. Voilà.
Juste avant, est-ce que vous voulez de l'eau?
Est-ce qu'on peut pas fixer le truc là? Comme
ça.
On peut le mettre dans une direction. Tu peux le fixer, non? Là, ça passe bien. Mais...
Ouais, mais peut-être plutôt vers l'arrière, non? Voilà. Ouais, pas directement sur nous comme ça.
Voilà.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup.
Voilà. Bon. Alors, eh bien, on va attaquer ça correctement. On va tout de suite commencer, comme j'avais pensé le faire. Alors,
Marc,
Bon, alors est-ce qu'il me l'ouvre correctement ? Ah oui, donc, alors, très bien. Bon, merci de le dire, c'est bien. Alors oui, ça, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est si vous décrochez ou s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, autant tout de suite le signaler, quoi. Hein. On gagnera du temps, je pense. Oui, merci. On gagnera du temps. Hein. Voilà. Alors, les porte-paroles de l'entente avancent parmi les raisons pour lesquelles ils doivent poursuivre la guerre, qu'ils ont été agressés par l'Allemagne. Oui, parce que c'est un peu surprenant, hein, de démarrer comme ça. Les porte-paroles de l'entente avancent parmi les raisons pour lesquelles ils doivent poursuivre la guerre, qu'ils ont été agressés par l'Allemagne.
Les porte-paroles.
Des porte-paroles de l'entente. L'entente, c'était les Français, les Anglais, les Américains au moment de la guerre. On est en juillet 17 là. Enfin, c'est un texte qui a été rédigé en juillet 17. Voilà.
En 1917.
1917, oui. Ils doivent poursuivre la guerre parce qu'ils ont été agressés par l'Allemagne. Ils prétendent de ce fait qu'ils doivent amener l'Allemagne dans une absence de pouvoir telle que dorénavant lui soit retirée chaque possibilité de réaliser une agression. Dans cette forme d'une sorte d'accusation morale contre l'Allemagne seront plongées nébuleusement toutes les autres causes de cette guerre. C'est-à-dire, on fait porter le chapeau à l'Allemagne pour la guerre 14-18. Voilà, c'était la situation à l'époque. Il est incontestable que vis-à-vis de cette accusation, l'Allemagne a été placée dans la nécessité d'établir de manière toute nue comme elle a été entraînée dans la guerre. Comment elle a été entraînée dans la guerre, hein ? À la place de cela, on a jusqu'à présent seulement des explications doctrinaires des causes de la guerre qui font aussi l'impression de conclusion d'un professeur qui ne raconte pas ce qu'il a vu, mais qui expose de documents, à partir de documents, ce qui s'est présenté à lui sur des événements lointains. Ouais. Alors, c'est ainsi que sont tenus tous les exposés du chancelier du Reich sur les événements du déclenchement des hostilités. Mais de telles explications sont inappropriées à faire un effet. On les récuse simplement en ce qu'on leur oppose de l'injustifié ou autre chose d'injustifié. Voilà. Et alors, il finit. Alors, c'est ce qui a été rédigé dans le premier mémorandum, qui est un document privé, qui a été rédigé en juillet 17 pour être porté par des relations aux gouvernants d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, quoi, des deux empires en question, quoi. Et là, c'est un memento qui a été rédigé sur la demande des personnes qui avaient sollicité Rudolf Steiner, et après de longs entretiens à Berlin, à raison d'une heure par jour, je crois, pendant plusieurs semaines. Ça a commencé en mai et puis ça s'est étalé jusqu'en juillet, quoi, hein, tous ces contacts. On lui a demandé s'il pouvait un peu mettre ça noir sur blanc pour que les gens aient un peu quelque chose sur quoi s'appuyer quand ils iront voir des gens plus influents, quoi.
D'accord, donc c'est un groupe qui a demandé à Steiner de se...
Quelques personnes, vraiment, hein. C'est Paul Sterhausditz et puis un autre que je ne me souviens plus. C'est deux, trois personnalités et leur réseau de proches, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de privé. Et alors, il termine par quelque chose qui est important. Donc, vous avez vu cette histoire qui ne raconte pas ce qu'il a vu, mais qui parle comme un professeur qui a vu ça de documents lointains, enfin, voilà. Et ça passe pas. Hein, c'est la situation en 17, quoi. Hein, la façon dont, en gros, il est en train de leur dire la façon dont vous vous y prenez. Bon. Si, par contre, on racontait simplement les faits, ainsi se présenterait ce qui suit. Et après, il y a tout un déroulé de points que Steiner énumère pour les aider à argumenter. Voilà. Mais ça, je vous les laisse de côté. J'ai surtout souligné ça pour montrer que ces documents qui sont privés, qui tomberont peut-être quand même dans les mains d'Émile Molte, un peu par hasard, je crois, assez vite après, mais qui ont été vraiment publiés publiquement que beaucoup plus tardivement. Je ne sais même pas s'ils étaient déjà publiés au décès de Rudolf Steiner, quoi. Hein, donc c'est vraiment le prendre comme des documents privés, mais qui ont destiné à des gouvernants. Voilà. Mais c'est nous maintenant, historiquement, c'est des documents qui témoignent de la tentative de poser un nouvel ordre de droit et de relations internationales, en fait. Ils sont aujourd'hui perçus comme ça. Ben ça va venir, ça va sortir quand même. J'espère qu'à la sortie de la conférence, vous aurez une vague idée. Vous me direz, hein, si c'est raté, c'est raté. Hein, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Hein, peut-être que vous aurez des suggestions. Voilà. En fait, vous comprenez bien que juillet 17, enfin, j'ai parlé de mai, même mai 17, mai, juin 17, juillet 17, et en juillet 17, ça s'est rédigé. Il y a un petit côté historique, hein, c'est il y a juste 100 ans, quoi. Hein. Voilà. Alors, j'extrais vraiment, hein, ça va pas avoir de lien direct, mais dans la suite de documents, on trouve une phrase qui est comme ça. Car la Russie pourra toujours lancer son... C'est la question de négocier la paix à l'Est. Parce que le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle était... Elle était prise entre deux fronts, quoi. Hein. Car la Russie pourra toujours lancer son caractère fondamentalement slave dans le plateau de la balance, de la solution. L'Autriche-Hongrie peut seulement opposer à ce poids la libération, en italique, des Slaves de l'Ouest. Voilà. Cette libération peut seulement aller de soi sous le point de vue de l'autonomisation de toutes les branches de vie des peuples qui concerne l'existence nationale et tout ce qui en dépend. On n'a pas le droit de reculer d'effroi devant la pleine liberté, en italique encore une fois, dans le sens de l'autonomisation et de la fédéralisation de la vie des peuples. Bon, ça donne déjà un peu la tournure de la chose. Et là vient la phrase qui est importante. Le façonnement de ces rapports surviendra alors seulement de manière saine quand le national sera accouché à partir de la liberté, pas la liberté à partir du national. Hein? La liberté à partir... Enfin, le national à partir de la liberté, ça reste encore un peu abstrait, pas la liberté à partir du national. Alors, si on aspire au premier plutôt qu'au dernier, c'est-à-dire, dans le cas présent, le national accouché par la liberté, plutôt qu'au dernier, ainsi on se place sur le sol du devenir de l'histoire du monde. Si on veut le dernier, ainsi on travaille contre le devenir et pose les raisons de nouveaux conflits et de nouvelles guerres. Alors, un petit peu d'histoire, c'est après le moment où Wilson, le président américain, Woodrow Wilson, a énoncé son principe de ce qu'on appelait déjà et on a continué d'appeler ensuite l'autodétermination des peuples. Ça, vous connaissez tous ? Détermination des peuples. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour le dire encore autrement, quoi. Ça a même un petit côté gaullien, parce que c'était aussi le credo de Gaulle chez nous. Hein. Vive le Québec, libre. C'était aussi le principe, quoi. Voilà. Et là, Steiner nous présente ce dernier, c'est-à-dire la liberté à partir du national, c'est-à-dire qu'on fait passer le national d'abord comme disons, promoteur de liberté.
Mais qu'est-ce qu'il entend par le national ?
Ouais. Alors on va voir, on va peut-être trouver tout de suite dans la suite de ce que j'ai retenu quelque chose qui va nous le dire dans ses mots à lui, enfin dans, ou deux au moins dans les mots traduits. Voilà. Ouais, non, ça, c'est pas. Alors, si, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que, en gros, l'idée, c'est d'opposer à cette espèce d'illusion de libérer les peuples le fait que on était en Europe du Centre en mesure de proposer de libérer les peuples d'une autre façon, c'est-à-dire de libérer les peuples par les individus, c'est-à-dire d'abord libérer les individus, et que s'en suivrait la liberté des peuples. Parce que le national, c'est ça. C'est le...
L'ensemble des gens.
Hein?
Le national, c'est l'ensemble des gens.
Ouais, alors justement, mais ça va nous amener sur ces fameuses questions... qu'est-ce que c'est qu'un peuple, qu'est-ce que c'est qu'une nation, etc. Alors, ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que géographiquement, en Autriche-Hongrie en particulièrement, c'était une mosaïque de cultures, de langues, de peuples donc, on pourrait dire, de nationalités, entre guillemets, parce que là maintenant, différentes, sur des espaces géographiques complètement imbriqués. Ça, c'est caractéristique, et encore aujourd'hui, et même encore récemment, on a eu des guerres à ce sujet-là. Hein, la dernière guerre européenne qui date il n'y a pas si longtemps, avec Sarajevo, tout ça. C'est cette problématique-là, encore, hein, avec le nettoyage ethnique. Ben, c'est normal, à partir du moment où il faut faire la place à une nation sur un territoire donné, et puis qu'on a affaire à des nationalités mélangées sur un même territoire, il y a... Il y a peut-être différentes méthodes, mais en gros, il faut qu'il y en ait quand même qui dégagent, de gré ou de force, et que d'autres restent. Hein? Et c'est ça que Rudolf Steiner a déjà dit, si on choisit le dernier, c'est-à-dire cette liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, ben, ça sera qu'un bain de sang qui se continuera, quoi. Et on entend des fois parler du XXe siècle comme celui du nettoyage ethnique. Comme jamais dans l'histoire. Voilà. Alors là, il y a une autre petite phrase que je vais peut-être quand même vous lire, même si elle semble un peu... C'est encore un autre aspect qui est soulevé. Alors, j'ai commencé par cet aspect un peu de Steiner qui dit « Vous vous y prenez mal déjà, hein. Il faut peut-être vous affirmer et pas dire des choses de loin ou justifier théoriquement, mais il faut dire ce que vous avez vraiment vécu. » Ça commence comme ça. C'est quand même intéressant que dans un document comme ça, ça commence par ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et là, on a une autre chose qui peut sembler anecdotique, mais qui a son importance. On ne devrait absolument pas conduire cette haine dans le champ... Parce que c'est simplement naïf. Car cette haine n'est que la draperie de la guerre.
La haine
n'est que la draperie de la guerre. Alors, une haine qui décrit peut-être un peu avant, c'est la haine des ennemis, c'est les sentiments de haine, tout simplement, d'une manière très générale, quoi.
Ce que tu as lu avant, en disant qu'il fallait empêcher l'Allemagne
Non, c'est c'est une... Comment, moi, je pense que c'est une remarque de portée toute générale, simplement. Il est en train de nous rendre attentifs que la haine, en tant que telle, la haine qui se développe entre les individus, entre les peuples, il la qualifie de draperie de la guerre. Et puis il continue, « n'est que la lèche de ceux qui veulent ou doivent accompagner de leur discours les indicibles tristes événements ou de ceux qui veulent chercher dans l'exaspération de cette haine un moyen d'atteindre ceci ou cela. » C'est-à-dire que la haine, là, est vraiment décrite comme un, non comme un simple résultat, mais comme un moyen de parvenir à des fins. Voilà. Je voulais juste le, voilà. Alors, pas tout de suite après, mais peu après, là, il nous dit quelque chose, alors, qui est un thème qui revient beaucoup dans ce document, et dans le suivant, parce qu'il y en aura un deuxième plus tard. La vérité est que l'Angleterre, depuis de nombreuses années, a compris comment faire une politique orientée à partir des rapports réels en Europe, dans un sens qui, lui, semble avantageux, qui a été tenu comme une utilisation, dans le caractère de science de la nature, des forces d'État et de peuple disponibles. Alors, le dire plus simplement, c'est que apparemment, là, Steiner rend attentif ses gouvernants ou ses interlocuteurs sur le fait qu'il y a une façon particulière d'aborder les questions des relations entre peuples ou entre nations en Angleterre. Et qu'il y a une utilisation, alors il dit, dans le caractère de science de la nature, c'est-à-dire de ces sciences qui permettent de comprendre plutôt l'inanimé, on pourrait dire, quoi. C'est dans les sciences de la nature, on a pas seulement les sciences naturelles, mais on a surtout la physique, la chimie, et toutes les autres sortes. En fait, c'est les sciences, pour Steiner, les sciences de la nature, c'est toutes les sciences qui décrivent ce qui est perceptible. Perceptible, je veux dire, par les sens.
Parce qu'en France, ça n'existe pas les sciences de la nature.
C'est les sciences tout court. C'est la science tout court. Mais pour Steiner, je pense que les Allemands aussi parlent de sciences de la nature. En tout cas, Steiner, lui, moi, je le comprends comme ça, parce qu'il y a d'autres endroits, il parle de sciences de l'esprit. Et il parle encore d'une troisième sens, assez souvent, c'est ce qu'il appelle la science sociale. Et il y a des endroits où il parle même des rapports que ces trois sciences ont entre elles, comme si elles formaient un triptyque, quoi. Voilà. Donc, d'où la nécessité, à chaque fois, c'est Naturwissenschaft, au pluriel ou au singulier, hein, souvent au singulier. Hein? Naturwissenschaft. Voilà. Mais en général, la plupart des traducteurs ne s'arrêtent pas à ce détail. Alors, il y en a qui ont traduit sciences naturelles, ce qui est alors là totalement pas adapté, et d'autres simplement sciences. Voilà. Les sciences. Ça, on trouve partout dans les œuvres, dans les traductions de Steiner. Voilà. Alors, encore une fois sur l'Angleterre. Hein, on pourrait presque se dire qu'il a...
Oui,
ouais.
C'est acquis.
en plus... Mais l'Angleterre travaille en plus dans la direction de ce qui se laisse réaliser par les forces reposant en elles-mêmes. Pendant que d'autres ne se laissaient pas aller à l'observation de telles forces. Il y a quand même un savoir-faire, hein. C'est pas anodin, il est en train de nous dire, ils savent faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, hein. Pendant que d'autres ne se laissaient pas aller à l'observation de telles forces, oui, ils auraient volontiers eu un distingué sourire quand on leur aurait parlé de telles forces. Bon, mais ça n'existe pas, hein. Mais les Anglais, eux... Et il dit ensuite... Toute la structure de l'État d'Angleterre est instituée sur de tels travaux pratiqués, sur de tels travaux pratiques réels. C'est bon. Alors qu'est-ce que c'est, quoi, hein? Alors, pour faire cela, on doit premièrement connaître ses forces et deuxièmement déployer chez soi ce qui est déposé dans le sens de ses forces. Encore une fois, hein, pour souligner ce côté, voilà. Et, alors, je saute pas mal de passages, hein, donc là c'est juste des phrases pour essayer de rendre attentif au sujet. Et là arrive quelque chose, peut-être c'est l'effet de ça. Enfin, la guerre doit conduire l'Europe du centre à rendre visible le disponible en rapport à la vie de l'économie, de l'État, des peuples. Par cela seul, on peut forcer l'Angleterre à ne pas se comporter plus loin aux autres États sur le chemin d'une diplomatie écrasante, mais se laisser traiter avec elle comme d'égal à égal sur ce qui est à traiter entre les communautés humaines européennes. Alors, le fait... de commencer à identifier, enfin, de tourner autour de ses forces, en fait. Mais ça va aussi amener l'Europe du centre à révéler ça chez elle, cette adversité-là, quoi. Hein. C'est ce qu'il a l'air de dire. Et là, on voit surgir, alors, pour les spécialistes de triarticulation qui sont toujours à l'affût, c'est, vous voyez, vous avez remarqué, ça finit en parlant de à rendre visible, disponible en rapport à la vie de l'économie, virgule, de l'État, virgule, des peuples. Trois. Enfin, là, on voit apparaître. Enfin, historiquement, c'est intéressant. Voilà, on voit trois. Voilà. Trois, disons trois façons d'aborder la réalité sociale, en fait. Hein. Alors ensuite, aux six efficaces manifestations de Wilson, donc on en a parlé, parce qu'il était vraiment, quand il est venu, il a fait un voyage en Europe, il a été vraiment accueilli comme un...
Wilson.
Ah oui, c'était, il paraît, c'était spectaculaire. Hein.
C'est pas 14 qu'il en est.
Hein?
C'est 14, non?
Non, c'est au cours de la guerre.
Oui,
en 17, c'est fait, quoi. Il a présenté ces 14 points dans lesquels il y a ces fameuses libertés des peuples. Et ça, cet aspect de liberté des peuples, ça a eu beaucoup de succès, quoi. Jusqu'en Europe centrale, même, des fois. Voilà. Aux six efficaces manifestations de Wilson doit être présenté ce qui, en Europe du Centre, peut vraiment être fait pour la libération de la vie des peuples, pendant que ces mots n'ont rien à leur donner que la domination mondiale anglo-américaine. Ce qui peut vraiment être fait pour la libération de la vie des peuples, pendant que ces mots, ces fameux mots de Wilson, n'ont rien à leur donner que la domination mondiale anglo-américaine. Alors, quand on connaît l'histoire après, quoi, hein, comme nous, 100 ans après, on a vu l'histoire, quoi. Hein, et on n'est peut-être même pas encore fini avec cette histoire-là. Hein. Mais c'est quand même intéressant de se dire que voilà, il y a 100 ans, quoi, ça se rédigeait, quoi, hein, cette affaire-là. Alors. C'est pourquoi seul peut battre le programme de Wilson, un programme centre-européen qui est réel. Cela signifie qu'il ne souligne pas tel ou tel souhait, mais est simplement une description de ce que l'Europe centrale peut faire parce qu'elle a en elle la force de se faire. À cela appartient, 1. Qu'on considère l'objet d'une représentation démocratique. Qu'on considère que l'objet d'une représentation démocratique ne peut être que les affaires purement politiques, les militaires et les policières. Donc, politique, militaire et policière, pour une représentation démocratique. 2. Celles-ci sont seulement possibles sur la base de soubassements formés historiquement. C'est-à-dire à partir de l'existant, quoi, hein, de l'histoire déjà vécue, quoi. Si elles sont représentées pour elles-mêmes dans une représentation populaire et administrées par une administration responsable devant cette représentation populaire, ainsi elles se développent nécessairement conservatrices. En italique. Il y a un petit côté dans la vie...
En italique, tu veux dire dans l'original ?
Ouais, enfin, oui, dans l'original, c'est marqué en italique. C'est-à-dire conservatrice, c'est comme souligné, quoi. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la nature. Voilà. Alors, il y a autant le lire. Une preuve extérieure pour cela est que la social-démocratie elle-même est devenue conservatrice en ces choses depuis le déclenchement de la guerre. Il y a même les gens de gauche, à l'époque, sont devenus conservateurs quand la guerre s'est déclarée. C'est parce que c'est dans la nature même, apparemment, pour Steiner, de cette sphère-là de la vie de la société. Elle le deviendra encore plus, d'autant plus qu'elle sera forcée, par la mesure du sens et des faits, de penser que dans la représentation populaire peuvent vraiment être seulement objet des affaires politiques, militaires et policières. Allez, hop.
C'est la seule chose qu'il peut discuter.
Il a l'air de dire ça. Voilà, on est qu'au tout début, hein, il y a beaucoup d'explications qui viendront plus tard. Voilà. Mais là, c'est déjà présenté comme ça. Et je pense que pour des gouvernances, ça doit être suffisamment clair. Enfin, je pense qu'il supposait que ça soit suffisamment clair. À l'intérieur d'une telle institution, l'individualisme allemand peut aussi se déployer avec son système fédéral, qui n'est pas une chose fortuite, mais qui est contenue dans le caractère allemand. C'est-à-dire, du coup, le côté fédéral des Allemands, ça, ils considèrent que c'est quelque chose qu'ils ont dans la peau, quoi. Enfin, dans leur façon d'être, quoi. Peut-être pas les gènes, hein. Avec Steiner, il faut se méfier, hein. Les gènes.
Non, mais avant de voir l'histoire.
Maintenant le 2. Toutes les affaires économiques seront ordonnées dans un parlement économique, en italique, le parlement économique particulier. particulier. C'est un autre. Voilà. Quand celle-ci est débarrassée de tout le politique et le militaire. Donc l'économie débarrassée du politique et du militaire. Ainsi, il déploiera ses affaires, ainsi que c'est uniquement et seulement approprié à ses affaires, à savoir opportunément. En italique aussi, opportunément. L'opportunisme comme étant une caractéristique nécessaire ou à sa place dans la vie des affaires, dans l'économie.
Et qu'est-ce que tu dis pour opportunisme aussi ?
Opportunisme ou un truc comme ça. Là, il n'y a pas trop de problème de...
Là,
oui, c'est ça. C'est la capacité à
réaliser le fait qui se présente là.
Ben oui, je pense. Et on comprend assez facilement que c'est la nature de l'économie de tirer parti. Enfin, indépendamment que ça soit pour à quelle finalité, mais même pour satisfaire simplement les besoins des autres, si se met à faire beau, je vais plutôt faire un geste de semis, etc. Et puis je vais plutôt faire ma comptabilité quand il pleut. Enfin, c'est de l'opportunisme.
Les ventilateurs et les climatisateurs.
Voilà, pareil. Là. Oui, c'est déjà un peu plus dans le style de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Comme on n'arrive pas non plus à déclencher la chaleur pour vendre des ventilateurs, donc voilà. Ensuite, troisièmement, toutes les affaires juridiques, pédagogiques et spirituelles seront données à la liberté des personnes. Sur ce domaine, l'État a seulement le droit de police, pas l'initiative. Je le répète, hein. Toutes les affaires juridiques, pédagogiques et spirituelles seront données à la liberté des personnes. Pas des peuples, hein, des personnes, il y a marqué. Sur ce domaine, l'État a seulement le droit de police, pas l'initiative.
C'est-à-dire, c'est les désordres.
Bah ouais, ouais, probablement. Quand les gens s'entendent pas, quoi. Bah, au moins ramener le calme, quoi. Parce que sur des questions spirituelles, on peut se scraper le chignon, quoi. Il n'y a pas de souci, ça fait partie
non,
du jeu. Hein? Voilà. Ce qui est pensé ici est seulement apparemment radical. Apparemment radical. Parce qu'il se doutait bien que le lecteur allait peut-être... hein, les gouvernants avaient quand même peut-être se dire bon, c'est quand même un peu radical, le monsieur, là. Hein? En réalité, on ne peut se heurter à ce qui est pensé ici. On ne peut s'y heurter que seulement si celui... peut se heurter seulement celui qui ne veut pas saisir les faits avec des yeux impartiaux. En gros, regardez autour de vous et vous verrez. L'État laisse passer aux corporations de choses, Zach, de métiers et de nature des peuples, d'instituer leurs tribunaux, leurs écoles, leurs églises, et ainsi de suite, et il laisse l'individu se déterminer son école, son église, son juge. L'individu se détermine librement, donc, son école, son église, son juge.
Donc, toutes les directions religieuses et culturelles sont acceptées.
C'est-à-dire que... Donc... alors, déjà, quand il parle des corporations, il dit corporation de choses, virgule, de métiers et de nature des peuples. Comme s'il y avait trois sortes d'organisations.
Qu'est-ce qu'il y a des choses ?
Ouais, Zach, mais ça paraît bizarre, mais j'ai cru comprendre quand même que les choses, c'est les conceptions du monde, en l'occurrence là. La religion qu'on choisit, par exemple. Alors, j'ai cherché dans le lexique Zach, mais je suis obligé de rester.
Un club de foot, c'est un Zach.
Hein ?
Un club de foot, c'est un Zach. C'est une chose.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est tout événement, tout club, tout.
Ouais. Ouais. Alors, mais voilà, quoi. C'est comme ça qu'il nomme ça. Et ça semble correspondre à ce qui est le regroupement par conception du monde, disons. Par vision du monde. Religion. Alors que les autres, c'est deux métiers. Alors, ça, c'est un savoir-faire dans un domaine particulier d'une activité, quoi. Et de nature des peuples, alors là, ça serait plutôt le culturel dans le sens de, on a une même langue, on a une même culture, qui est quand même distinct de probablement de ce qu'il appelle de corporations de choses, parce qu'on peut être catholique dans une culture.
C'est la tradition,
C'est-à-dire, on peut avoir une conception du monde, et mais elle n'est pas liée forcément à la culture, quoi. On a des cultures différentes dans une même conception du monde.
Moi, je ne vois pas que ça, c'est une conception du monde, c'est la réalisation d'une conception. C'est
ce qui serait. Oui, bon, on verra, on trouvera peut-être dans la suite, hein, mais voilà. Et puis après, pour ramener à l'individu, ça revient que. L'État permet aux corporations de choses, de métiers et de nature de peuple d'instituer leurs tribunaux, leurs écoles, leurs églises. Alors là, si on les prend dans le même sens, faut voir. Bon. Et ainsi de suite. Et il laisse l'individu se déterminer son école, son église, son juge. Voilà. Naturellement, pas au cas par cas, mais sur un certain temps. Et en gros, on choisit pas le juge au moment où on est déjà sous une mesure de, où la police est venue vous chercher. On choisit son juge à l'avance pour les 5 ans qui viennent, par exemple. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est l'idée que c'est quelque chose qu'on c'est un peu par exemple comme en Allemagne où on a aujourd'hui. Au niveau fiscal, on a la possibilité de choisir à qui on affecte quel denier du culte on verse à travers l'impôt. Alors on coche catholique, protestant ou voilà. C'est un peu la même idée. Non, en Allemagne.
En Allemagne.
Voilà. Hein? Alors, au début, cela devra bien être limité par les frontières territoriales. Ce fait de choisir. Hein. Cependant, cela porte la possibilité en soi d'aplanir les différences nationales, d'autres aussi, sur des chemins pacifiques. Cela porte même en soi la possibilité de créer quelque chose de réel à la place du vague tribunal arbitral des États. La Société des Nations, je pense. Quelque chose qui a à voir avec ce qu'on était en train de mettre sur pied à ce moment-là, qui s'appelle, qu'on connaît, nous, sous le nom de Société des Nations. C'est-à-dire ce qui était avant ce qu'on a fait ensuite, après la Deuxième Guerre, où on a fait l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Hein? Voilà.
Le siège aurait été très généreux.
Ouais. Alors, aux agitateurs nationaux ou supplémentaires seront prises là leurs forces. Voilà. Pas d'Italien à Trieste ne trouverait des partisans dans cette ville quand chacun pourrait déployer en elle ses forces nationales. Chacun, ça veut dire qu'il y a la place pour toutes les forces nationales dans une même ville. Et être malgré tout classé à Vienne à partir des raisons évidentes opportunistes pour ses intérêts économiques. Et malgré tout, son gendarme, se faire payer son gendarme à partir de Vienne. Voilà. C'est un exemple juste comme ça de la situation. À partir de Vienne aussi. C'est-à-dire que, c'est, en fait, ce qui montre simplement, on peut retenir ça, c'est que dans cette façon de scinder l'organisation sociale en trois domaines, ça permet de se relier à des endroits différents en fonction de la nature de l'activité qu'on a, quoi. Enfin, si on a des intérêts à être plutôt en rapport commercial avec dans la sphère de Trieste, on n'a pas besoin d'être piloté de Vienne. Mais par contre, on peut très bien être piloté de Vienne dans un autre domaine, quoi. Enfin, ou d'avoir son administration. Voilà. Là, c'est dans l'idée de cet empire, hein, qui était quand même qui allait jusqu'à Trieste. Quoi. Alors. Alors, encore ça pour finir. Ah non, alors, ouais, alors, est-ce qu'on récapitule vite fait combien ça fait? On est déjà, ah si, quand même déjà, on y est presque depuis une demi-heure maintenant. Hein. Alors, si on peut peut-être le lire rapidement. Les structures politiques, c'est un récapitulatif en gros. Les structures politiques de l'Europe peuvent ainsi se développer sur la base d'un saint conservatisme, qui ne peut jamais être pensé sur une fragmentation de l'Autriche, mais au plus sur son extension. Ça, l'histoire a montré que... Bon. Mais il y a un autre endroit, il leur dit aussi plus ou moins que s'ils prennent pas le tournant, ils risquent de sauter. Quoi. Donc, ils ont pas pris le tournant, ils ont sauté. Quoi. Bon. Les structures économiques se développent opportunément, sainement, car personne ne peut vouloir avoir Trieste dans une structure économique dans laquelle cela doit s'effondrer économiquement, quand la structure économique n'empêche pas de faire ce qu'il veut, ecclésialement, nationalement, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en business dans un secteur et se relier dans les deux autres domaines à d'autres centres, quoi, hein. Voilà. Les affaires culturelles seront libérées de la pression qu'exercent les choses politiques et économiques, et elles arrêtent d'exercer une pression sur celles-ci. C'est-à-dire que les autres domaines arrêtent d'exercer une pression sur celles-ci. Toutes ces affaires culturelles seront en permanence maintenues en un sain mouvement. C'est le seul endroit où il le dit, ben là ça bouge dans les affaires culturelles, très très fortement apparemment. Voilà. Et il finit en disant: une sorte de Sénat élu par les trois collectivités auxquelles reviennent les affaires politiques, militaires, économiques et juridiques pédagogiques, donc trois collectivités, hein, politiques, militaires, économiques et juridiques pédagogiques, assurent les affaires communes auxquelles appartiennent aussi, par exemple, les finances communes. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont chacune leurs moyens, probablement, mais ils ont, pour certains sujets, il faut mettre en commun, quoi, et avoir des finances communes. Voilà. La réalisation de ce qui est introduit dans cette présentation ne sera mise en doute par personne qui pense à partir des véritables rapports en Europe centrale, car ici ne sera absolument pas exigé ce qui devrait être réalisé, mais il sera seulement démontré ce qui veut se réaliser. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on a, enfin pour le dire plus rapidement aujourd'hui, c'est de dire la triarticulation, apparemment pour lui, ce n'est pas une idée qu'on va venir introduire dans la réalité, mais c'est quelque chose qui se dégage déjà en soi de la réalité, et que lui fait surtout le travail de rendre rendre attentif à ce qui existe déjà, en fait. C'est un peu ça qu'il veut dire.
Et que les événements qui se passent permettent peut-être d'advenir.
Ouais, alors, après. Alors après, il y a une petite chose que j'ai aussi, qui m'a beaucoup intéressé. Tout le monde occidental n'a absolument pas de concept de cette véritable liberté nécessaire pour l'Europe centrale. On parle là, donc, à l'Ouest, et on en fait partie, chers amis. Enfin, à l'époque, on n'y était pas, mais on y est depuis. À l'Ouest. Enfin, c'est-à-dire que dans la mesure où on se sent français, on fait partie de l'entente. On est à l'Ouest avec les Anglo-Américains en 14-18, c'est ça. L'Alsace était dans un cas un peu particulier parce qu'à cette époque-là, elle faisait partie de l'Est, des forces centrales. Enfin voilà. Bon. Donc, tout le monde occidental n'a absolument pas de concept de cette véritable liberté nécessaire pour l'Europe centrale, c'est-à-dire cette liberté qui serait fondée sur l'individu comme base pour la liberté de peuple ou des peuples, hein, contrairement à celle promue par l'Ouest, qui est une liberté des peuples, de peuples. Voilà. On parle là de liberté des peuples, donc à l'Ouest, et pense en cela non la véritable liberté des humains, mais une chimérique liberté collective de rapports humains, comme ils se sont formés dans les États ouest européens et en Amérique. C'est-à-dire que là, il met carrément en cause nos rapports humains, enfin, les rapports humains de nos ancêtres il y a 100 ans. Je ne sais pas ce que nous on a hérité depuis ou ce qu'on a changé, hein. Mais il y aurait une forme de chimérique liberté collective des rapports humains, comme ils se sont formés dans les États ouest européens et en Amérique. Je croyais que j'étais des rapports libres et tout et tout et tout.
C'est la liberté économique qu'on a fait.
Ouais, mais je sais pas si c'est aussi. J'ai peur que ça soit plus général, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même la question aussi de. Alors, disons, cette véritable liberté nécessaire pour l'Europe centrale. Alors, cette véritable liberté, c'est quoi?
Et pourquoi l'Europe centrale? C'est parce qu'il y a un ensemble de peuples qui sont.
Ouais. Bon. Ouais. Alors, voilà. Alors, encore une petite chose. En dernière fin, cette guerre est dans la particularité dans laquelle... est dans la particularité dans laquelle elle se déroule la décharge de difficultés qu'on a omis de débarrasser sur les autres chemins corrects aussi longtemps qu'il en était encore temps. En gros, on n'a pas fait ce qu'il fallait au moment et du coup...
Une décharge,
oui. Non, c'est un peu comme... C'est presque un peu comme un orage, quoi. Hein. Ça claque, il y a un moment, ça pète, quoi. À force d'accumuler des choses qui sont... Alors, dans la littérature anthroposophique, là, quand on le suit, il y a, toute l'histoire du train qui devait pousser jusqu'à Bagdad, d'une ligne de chemin de fer, en fait, avec les intérêts de la banque nationale allemande de l'époque, quoi. Hein. Et que ça s'est heurté, effectivement, aussi à des intérêts d'autres... des Britanniques, entre autres. donc, c'est l'histoire du chemin de fer de Bagdad, c'est l'exemple qui revient le plus souvent comme d'une façon de tout mélanger, où on a utilisé la politique pour faire avancer des intérêts économiques, ou utiliser des particularités culturelles pour... Et c'est peut-être un exemple aussi de ce qui veut dire quand... Non, pas seulement, parce que c'est pas seulement la perception des intérêts économiques dont il parle quand il parle de l'organisation des Anglais ou du savoir-faire des Anglais, mais c'est quelque chose de plus, peut-être plus profond quand même, c'est-à-dire dans la... dans la façon d'être... Enfin, certaines forces qui sont nécessaires pour être en peuple, enfin, qui sont utilisées à des fins d'intérêt économique. C'est pas tout à fait la même... Vous voyez, l'idée, c'est un peu ça, quoi. Hein. Il y a un savoir-faire, là. Et alors, je me suis même demandé si, au fond, c'est pas quelque chose de très apparenté, justement, à la faculté de l'âme de conscience, justement. Il y a probablement quelque chose derrière comme ça, qui là n'est pas dit évidemment comme ça, mais quand on connaît un peu d'autres aspects au niveau anthroposophique, on ne peut pas ne pas penser que là, parce que il le condamne pas cette aptitude, il le présente vraiment comme une aptitude, quoi. Et quelque part, il a l'air de dire, mais et puis nous, ça va nous forcer à le révéler aussi quelque part. Enfin, bon, enfin, c'est ma compréhension en tout cas. Alors, on arrive bientôt à la fin des mémorandums, parce que je ne vous ferai pas les deux, hein, le premier suffit. Hein. Et il y a encore un truc que j'ai souligné, là, qui est intéressant, parce que ça va un peu plus loin dans cette affaire de corporation de choses, etc. En réalité, cette réalité prescrit... conformément à toutes les affaires religieuses et spirituelles, culturelles, auxquelles appartient aussi le national, c'est-à-dire la question nationale, l'identité nationale, mais on va mettre des guillemets, hein. le fait de se sentir d'une nation, d'un peuple, d'une culture, d'une langue, etc., c'est quelque chose qui fait partie des affaires religieuses et spirituelles, culturelles, quoi, pour Steiner. Une administration par corporation auquel la personne individuelle se reconnaît par la libre volonté et qui sera administrée en leur parlement, au pluriel en plus là, les parlements, peut-être un parlement par corporation, enfin les corporations s'organisent peut-être comme elles veulent, hein, en leur parlement comme corporation, mais n'ayant jamais affaire avec le rapport de cette corporation à la personne individuelle. C'est-à-dire qu'il y a là une vie, il y a deux niveaux. C'est-à-dire, je pense qu'on, en tant qu'individu, on se manifeste comme adhérent. Alors là, on rentre justement dans cette histoire d'être membre de quelque chose ou pas, hein, et d'administration de la vie de l'esprit, quoi, hein, public de l'esprit. Donc, voilà. La personne individuelle se reconnaît par la libre volonté et ces corporations seront administrées en leur parlement comme corporation, mais n'ayant jamais affaire avec le rapport de cette corporation à la personne individuelle. Et jamais il ne sera droit à une corporation d'avoir affaire avec une personne appartenant à une autre corporation sur le même point de vue. C'est-à-dire que si vous vous êtes enregistré chez une corporation d'anthroposophes, par exemple, c'est pas celle des catholiques ou des libres penseurs qui pourra avoir un rapport avec vous dans ce domaine-là. C'est un peu comme si l'individu a le choix et après, à partir de ces choix-là, se créent des corporations et ces corporations vont discuter entre elles ou vont même discuter avec les autres, enfin en tant que vie de l'esprit global avec les autres, avec ceux qui ont la charge des questions économiques et ceux qui ont la charge des questions politiques, quoi. Mais on peut pas revenir directement vers l'individu. L'individu, il est à l'origine et en même temps, il est protégé par, enfin, où il est caché par, enfin, où il est.
Il y a un certain nombre de personnes pour créer une corporation.
Voilà. Alors, c'est après que ça vient, c'est ce passage-là. De telles corporations seront accueillies dans le cercle du Parlement. Alors là, c'est plus au pluriel, hein, c'est le Parlement de la vie de l'esprit, on pourrait dire, lorsqu'elles réunissent un certain nombre de personnes. Jusque-là, elles restent choses privées. C'est-à-dire qu'en gros, chacun peut monter sa corporation, soit sa corporation de conception du monde, soit sa corporation de métier, soit sa corporation de culture, même à la limite. Mais on la prend en considération dans l'espace public qu'à partir d'un certain seuil, quoi. Hein, voilà. Voilà. Jusque-là reste chose privée, de laquelle aucune administration ou représentation n'a à se mêler. C'est-à-dire que pour ce qui est des choses spirituelles privées, c'est pour la vie publique, ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas une corporation reconnue. Enfin, c'est comme ça que je le comprends.
C'est déjà le cas actuellement.
Ouais, d'un certain point de vue.
Quoi?
Voilà.
C'est ce qui est vu actuellement.
Ouais, ça dépend où.
Oui, voilà. En France, en Europe.
Voilà. Bon, alors ça, voilà, pour la première partie, on a fini.
Qu'est-ce que tu voulais nous montrer?
Je voulais juste vous donner envie de lire ça peut-être, éventuellement, parce que j'ai juste picoré dedans, quoi. Hein.
Ça, c'était le premier mémorandum.
Ça, c'est ce qu'on trouve dans le premier mémorandum. Alors, éventuellement, pour ceux qui seront là demain matin, si ça leur chante, on peut aussi regarder un peu le second, mais il n'y a pas tellement. Disons que c'est formulé différemment, ça ne s'adresse pas tout à fait au même. C'est déjà un peu après, parce qu'il a été finalisé en février 18. Le deuxième.
Enfin, il a...
C'est un texte.
Ouais. Alors oui, ça c'est. Alors, ça va paraître dans la GEA 24 qui va sortir normalement cette année. On trouvera ça chez Édition Anthroposophique Romande. Et autrement, il y a une traduction que j'ai faite là où vous les avez en entier aussi dans un fascicule que j'ai là. Et vous les avez aussi sur avec la feuille que vous avez trouvée, là vous avez la possibilité de trouver la version en ligne, quoi, hein, que vous pouvez aussi éventuellement vous choisir le passage que vous voulez, puis vous l'imprimez vous-même, quoi.
Mais en allemand, c'est la GEA 24.
Ouais, dans la GEA 24.
Mais c'est pas un nouveau.
Mais c'est la première fois que ça va sortir en français, en réalité.
Ah bon?
Eh oui. Moi, je suis un peu avant EAR, mais ça, jusqu'à présent, ça n'avait jamais été traduit en français.
D'accord. Et c'est le titre en allemand, c'est
quoi? La GEA 24, c'est les articles sur la situation de l'époque. On en a déjà 13 qui sont vendus avec la dernière édition, qui est déjà assez vieille, des fondements de l'organisme social. Les 13 articles et commentaires qui sont derrière font partie de la GEA 24. Voilà. Et là, cette fois-ci, il semblerait que la GEA 24 va sortir complètement.
En français.
En français, ouais. Voilà. Et moi, là-dedans, je n'ai que les mémorandums, parce qu'il y a plein d'autres choses hein, dans cette GEA 24. Et puis, j'ai aussi un récapitulatif historique, jour par jour, mois par mois, des événements autour de ces mémorandums.
Ah,
dans l'été 17, quoi, hein, et puis la fin de l'année, quoi.
Voilà. Mais je ne comprends pas, là, après, ça peut nous aider.
Alors, voilà, oui, c'est une bonne idée hein, de poser la question. Mais, alors, voilà. Mais on passe tout de suite à la suite, ou vous voulez un peu ouvrir les fenêtres hein? Alors, vous connaissez peut-être ce livre, qui date d'une quinzaine d'années.
C'est de qui ?
Ça s'appelle « La société civile, le troisième pouvoir, changer la face de la mondialisation » par Nicanor Perlas. ça date d'une quinzaine d'années. C'est un livre qui a été écrit à peu près au moment des événements de Seattle, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est-à-dire qu'on a vu surgir là, à cette réunion qui était un G7 ou un G je ne sais plus combien. C'était pour l'OMC, une rencontre mondiale de l'OMC. On a vu surgir toutes sortes d'organisations non gouvernementales qui ont manifesté pour s'opposer aux décisions qui devaient être prises, quoi. Et le thème, c'est pour ça que c'est intitulé comme ça en français, c'est pas le titre d'origine, mais c'était d'abord écrit en allemand, ça a été en anglais, ensuite traduit en allemand, puis ensuite en français, et pour la version française, on a choisi la société civile, le troisième pouvoir. Et ça, c'est le livre, c'est le dernier livre en date qui a vraiment débordé largement le milieu anthroposophique en France. Parce que justement, y a ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui se réfèrent à ce livre-là, et donc qui ont une approche de la triarticulation aussi, basée là-dessus. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans... Alors l'auteur, lui, il a puisé chez Steiner, il était même, au moment où il a écrit ça, et je ne sais pas si c'est encore le cas, il était président de l'Association anthroposophique des Philippines. Il a été militant altermondialiste, il a eu le prix Nobel de la paix alternative, je crois, et ensuite il s'est présenté aux élections philippines. Mais bon, je ne crois pas qu'il a été élu. Et en faisant ça, il a quelque part été, d'une certaine mesure, pas vraiment en contradiction, mais ce que m'a expliqué une militante qui en France du mouvement altermondialiste qui s'inspire beaucoup de ce livre. C'est qu'elle en a retenu que pour ce qui est de la force de la société civile, cette force se perd quand on passe dans la vie politique. C'est-à-dire qu'elle a sa spécificité, elle a sa force en tant que force morale, on pourrait dire, à condition de ne pas de rester bien distincte de la vie politique elle-même. C'est-à-dire que là, on sent quand même que dans cette tri-articulation ou tripartition du monde qui, on peut dire, est aujourd'hui devenue évidente pour tout le monde. À l'époque, ce n'était pas encore tout à fait le cas, il y a 15 ans, mais aujourd'hui, il suffit d'écouter un peu à la radio, on parlera toujours d'un monde tripartite quelque part. Hein. Il y a l'économie, il y a la vie politique, et puis il y a la société civile. Et ça peut faire penser à ce que développe Steiner dans ce que je vous viens de vous lire. Hein, ces trois formes-là d'organisation. À condition d'en rester là, c'est-à-dire dans ce que tu disais, mais à quoi ça nous sert? Parce que ça nous paraît un peu lointain. C'est-à-dire que ça nous paraît... Alors c'est vrai, ça s'adresse à des politiques réellement. Hein.
Le concept de société civile, maintenant, il est très à la mode.
Ben oui.
Puisque même le gouvernement de Macron a intégré les nouveaux députés, l'Assemblée a intégré les nouveaux députés qui sont issus en majorité de la société civile.
Mais qui ne sont plus la société civile, puisqu'ils sont même pour la politique.
Ils sont que pour 5 ans. Donc quand ils ont terminé, ils réintégreront leur métier, parce qu'ils ont tous un métier, et ce n'est pas des professionnels de la politique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous en lien avec la vie réelle des gens. Ils ont tous un métier.
Voilà, effectivement. Alors là, vous. Alors, il y a une autre chose importante dans ce livre, enfin, qui m'avait frappé à l'époque, c'est que Nicanor Perlas, pour fonder cette notion de tripartition ou de triarticulation de la société et annoncer ce troisième pouvoir de la société civile qui était en train de naître à l'époque. C'est-à-dire qu'il reconnaissait probablement des éléments de triarticulation de Steiner dans ce qui était en train de se passer. Il n'a pas complètement tort. Et puis, même cette histoire de la... Vous allez voir tout à l'heure que même cette histoire que quand on passe de l'un dans l'autre ou quand on fait une confusion entre vie de l'esprit chez Steiner et vie politique chez Steiner, mais qu'on n'arrive pas à bien voir où on est, l'esprit se perd justement. Et ça, c'est dans ce livre, et c'est tellement dans ce livre que une militante, 15 ans après, qui s'est construite un peu à partir de ce livre, pour elle, c'est le truc central qu'elle a compris, quoi. C'est-à-dire que si on veut agir sur le mode de la société civile, il faut y rester. Et quand on le quitte, on passe dans autre chose. Et c'est plus la même chose. Voilà. C'est intéressant. Et l'autre chose qu'il fait là-dedans, c'est que justement, il montre différents travaux de chercheurs et de différents courants spirituels ou philosophiques qui élaborent des sociétés triarticulées ou tripartites.
Il y a un autre exemple, juste pour cette idée que tu as dit avant. C'est les Verts. En fait, le parti des Verts,
oui.
ils ont toujours été militants et ils ont voulu apporter de nouvelles idées à la politique. Mais à partir du moment où ils ont voulu faire de la politique, ils ont toujours eu des échecs. Et on le voit à la plupart des résultats de ce parti-là.
Et d'autant plus quand... Ça dépend où, oui.
Ouais. Regarde le Bad Württemberg,
ouais. Oui, mais justement, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi, justement, plus on s'éloigne du local, plus ça devient casse-gueule. Il y a quand même une tendance à ça, quoi.
Ouais.
Non, par exemple, il y a des maires verts qui, en France, ont un succès et puis qui se maintiennent bien. Mais la problématique, plus on s'éloigne vers le pouvoir central, plus ça devient délicat.
Je pense aussi que ça dépend dans quel pays on est, parce que j'ai l'impression que dans certains pays, c'est beaucoup plus près.
Ouais. D'accord. Bon. Alors donc, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que pour ce qui est déjà clair dans ce livre-là aussi, c'est que des triarticulations, il y en a plusieurs. Ce que je voulais juste vous faire remarquer. C'est-à-dire que nous, à l'Institut, on a choisi de travailler celle de Rudolf Steiner. Point, basta. Le reste nous intéresse que en à côté, mais... disons que nous, on pense qu'on n'a pas fini de bien comprendre ce que Steiner a voulu nous dire en termes de triarticulation, quoi, hein, ce qu'il appelle la triarticulation. Par contre, on sait une chose, c'est que des triarticulations, il y en a de toutes sortes. Aujourd'hui, construites avec des moyens, etc. Et c'est quelque chose qui dans l'avenir, peut-être se manifestera d'autant plus. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'une triarticulation. Voilà. Ouais. Voilà. Bien. Alors, ouais, j'ai à peu près fait ça maintenant. Alors, je reviens. Bon, il y avait aussi autre chose qui était intéressant, c'est que j'ai trouvé une petite brochure qui a été éditée à Mayenne en novembre 44. Vous imaginez, hein, 44, hein, c'est le débarquement, hein, c'est juste après le débarquement. C'était la question de savoir quelle serait la constitution de la France après la libération. Rédigée par Jean Denis, qui est un petit industriel du textile mayennais, qui présente la triarticulation qui présente la triarticulation sur ce mode de l'époque et qui fait beaucoup penser à des choses qu'on a en fait dans les mémorandums. Mais les mémorandums à cette époque-là, il y a très peu de chances qu'ils aient été jusqu'à Mayenne, quoi. Ça veut dire que Steiner lui-même s'adresse aux gouvernants de l'époque en se mettant à la portée et en partant de ce qu'ils ont l'habitude, quoi. Hein. Faut bien voir ça, quoi. Hein. Quand on voit maintenant ce qu'il fera ensuite, à partir de 19, publiquement, ça devient complètement autre chose. Enfin, complètement autre chose, non, mais ça deviendra autre chose. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai mis cette fameuse phrase-là. Alors, un bon conseil... Hein, un bon conseil. Alors, bon, c'est peut-être pas nécessaire, hein. Parce que ça, c'est moi qui suis quand même prétentieux. Hein. Voilà, il est peut-être pas bon, mon conseil, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être un conseil de ma part. Alors, apprenez, alors apprenez, puisqu'on est plusieurs, hein, mais je l'avais d'abord reformulé pour moi-même au singulier, à faire vous-même... vos contrats voilà ou la loi, viendra à bout de vous-même. Bon, en fait, c'est de la possibilité d'être vous-même que, pour être un peu plus précis. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de procéder de la même façon, mais sur autre chose, donc sur une autre brochure que j'ai aussi mis sous forme imprimée pour cette occasion, et que vous pouvez aussi trouver donc directement sur Internet et choisir là-dedans ce que vous voulez vous imprimer, qui va tourner autour de ces trois notions-là. Conseil. Qu'est-ce que c'est un conseil? Qu'est-ce que c'est un contrat? Et qu'est-ce que c'est une loi? Et ça, on va donc découvrir ensemble en suivant Rudolf Steiner dans un certain nombre d'extraits, des petits passages comme ça. Tout doucement, pourquoi il insiste sur ces trois modes de relation, on pourrait dire. Hein, c'est-à-dire que c'est clair que si je donne un conseil à Tristan, par exemple, va te jeter du 13e étage, tu pourrais peut-être te jeter du 13e étage pour que, en tombant comme ça, ça rafraîchirait, hein, tu rafraîchirais un peu. Voilà. C'est peut-être pas un bon conseil, ça c'est une autre affaire, mais ça reste un conseil, quoi. Alors que si maintenant on légifère et on dit quand il fait chaud, vous êtes convié à monter au plongeoir de 4 mètres et à sauter dans la piscine, enfin vous n'êtes pas convié, vous devez. On est quand même dans un autre registre qu'un conseil. Et si on fait un pari stupide, on est déjà plus dans un contrat, on pourrait dire. Un pari stupide, du genre, je ne sais pas, traverse la rue à les yeux bandés, par exemple, contre, je sais pas moi, 10 balles, à 17h30, là, enfin, à Colmar, là, sur la vue, là. Voilà. Donc, c'est... Ou alors, pour le prendre plus raisonnable, un contrat, par exemple, livre-moi tant de carottes tel jour, telle heure, et puis botte-les comme ça, hein, voilà. On n'est pas dans la même relation que de dire, je sais pas moi, qui traverse en dehors des clous est passible de 10 euros d'amende. Bon, voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais alors maintenant, voyons comment Steiner et pourquoi Steiner aborde ça, quoi. Alors, oui, non, il faut que je l'ouvre. Ah si, ça y est, voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, je commence d'abord, pour changer un peu, là ça va pas être Steiner, c'est une introduction de Sylvain Coiplet aux extraits qu'il a fait sur ce thème de conseil, contrat, loi. Parce que il y a encore un autre problème annexe à cette affaire-là. Steiner se concentre à cet endroit sur la différence entre commandement et loi. Où commandement vaut pour l'ancienne vie de l'esprit qui n'est plus conforme à l'époque. Le conseil qui laisse libre est justement un acquis de la vie de l'esprit récente. C'est-à-dire que, pour vous, déjà que vous puissiez vous orienter, et puis du coup on pourrait... Avant la phrase, elle aurait été écrite, avant une certaine date dans l'histoire, la phrase, elle aurait été écrite, un bon commandement ou un commandement est. Voilà, donc là, il y a déjà quelque chose hein, qui vient se rajouter à cette, simplement à cette espèce de trois sortes de rapports. Quoi, hein. Là, dans ce rapport-là, on est passé du commandement, ou de l'interdit, on pourrait dire.
De l'ordre.
Ou de l'ordre, ouais, au conseil.
Pourquoi avant, le conseil n'avait aucune valeur.
Ouais, alors ça c'est des questions. Quand je vous propose qu'on le regarde une fois qu'on aura lu qu'on aura parcouru rapidement les extraits, parce que c'est vrai que ça pourrait être une sacrée discussion.
Parce que par exemple, les médecins, c'est pas une ordonnance, c'est un conseil. C'est pas un ordre ou une médecine.
Ouais, justement. Alors. Alors, je continue un peu ce qu'il dit aussi dans son introduction. Pour la vie de l'économie moderne, n'est pas parlé directement de contrat dans la citation du cours d'économie nationale, mais de la division du travail. Alors ça, c'est aussi peut-être une précision concernant les contrats. Mais celle-ci rend nécessaire un nouveau contrat de partage des marchandises entre entrepreneurs, directeurs du travail, et travailleurs, fournisseurs du travail. Cela ne fut pas seulement, comme évoqué ici, empêché par une vie de l'esprit restée en arrière. Alors on peut se demander si ça a un rapport avec ça, hein. Mais aussi par la survivance du droit de propriété romain. Alors, pour la vie de l'économie moderne, il n'est pas directement parlé de contrat. Ouais. Mais de la division du travail. Mais cette division du travail rend nécessaire un nouveau contrat de partage de marchandises. Entre l'entrepreneur, celui qui dirige le travail, et le travailleur, celui qui fournit du travail. Cela ne fut pas seulement, comme évoqué ici, empêché, dans l'extrait, on passera peut-être dessus, empêché par une vie de l'esprit restée en arrière, mais aussi par la survivance du droit de propriété romain. Voilà. Comme ça a été développé dans les fondements de l'organisation, de la question sociale. Alors. Donc, dans un premier extrait, il commence avec la question du droit de travail, du droit du travail. Je vois donc toujours le droit du travail comme menacé lorsqu'il devrait être réglé au sein de la circulation de la vie économique elle-même. Alors là, on est aussi dans l'actualité, hein, avec ce qui se profile à l'horizon, là. Où on veut rendre le droit du travail plus directement forgé par les accords dans les entreprises. On va directement dans ce que qui voit comme enfin je vois donc toujours le droit du travail comme menacé lorsqu'il devrait être réglé au sein de la circulation de la vie économique elle-même.
Donc, si ça se fait dans l'organisme économique,
c'est ce que Steiner dit quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire entre les donneurs de travail et les preneurs de travail, c'est le droit de travail est menacé. C'est exactement ce que veut faire Macron en réalité.
Bon.
Enfin, disons pas tout, mais une partie. Il veut qu'il y ait toute une partie du droit de travail qui puisse être définie à l'intérieur des entreprises, même plus des branches, même pas de la profession ou d'une seule entreprise, même éventuellement. C'est-à-dire qu'il y aura un droit du travail propre à chaque entreprise.
C'est justement, il disait hier sur la formation, il disait justement le droit du travail, et il dit qu'aujourd'hui on a perdu le sens, le vrai sens du travail. C'est plutôt de l'occupation, c'est plutôt. C'est dérivé, ce n'est plus le même aspect de ce respect de ce qu'on aime faire, je ne sais trop quoi, mais bon.
Mais ce que je veux dire par rapport à Macron, parce que c'est pas forcément. Ce qui veut changer, c'est pas. Parce qu'actuellement, le droit du travail s'occupe de beaucoup de choses.
Oui, mais alors attends, justement. Alors, garde-le pour toi pour l'instant, parce que voilà la suite. Aussi longtemps que règne la croyance que l'on veut régler ce qui est temps de travail, Ce qui est mesure et manière du travail à l'intérieur même du corps de l'économie, aussi longtemps le travailleur ne peut arriver à son droit. Alors, aussi longtemps que règne la croyance que l'on veut régler ce qui est le temps de travail, ce qui est la mesure et la manière du travail à l'intérieur même du corps de l'économie, aussi longtemps le travailleur ne peut arriver à son droit. C'est clair, ça veut dire que à ce jeu-là, le travailleur n'a plus son mot à dire. Quoi. Voilà. Le travailleur doit déjà avoir son droit du travail, oh là là, il y a même une faute, là j'ai oublié le R, pleinement réglé lorsqu'il se présente d'une manière ou d'une autre devant le chef de travaux. Le travailleur doit déjà avoir son droit du travail pleinement réglé lorsqu'il se présente d'une manière ou d'une autre devant le chef de travaux. C'est-à-dire, quand on va au boulot, il faut déjà qu'il y ait un droit du travail. On arrive avec un droit du travail, voilà, derrière soi, déjà formé, déjà décidé.
C'est pas... Au-delà du management, au-delà du chef de service.
Alors seulement il est en mesure de passer un véritable contrat à la place de l'actuel contrat illusoire. Contrat salarial ou comment on veut encore le nommer. Qui n'est pas un contrat libre parce que le travailleur n'a pas derrière lui le droit du travail. Qui seul le met en mesure de conclure vraiment un contrat libre. Alors là, on a déjà une histoire de rapport entre un droit, ou peut-être même une loi, hein, et un contrat. C'est-à-dire que là, Steiner est en train de nous dire que le droit du travail, c'est la condition de pouvoir faire un contrat libre. C'est-à-dire d'arriver vis-à-vis de quelqu'un qui vous propose du travail avec quelque chose sur quoi on peut s'appuyer et qui est déjà discuté et qui ne sera plus discuté là. Ouais, c'est ça. Alors après, oui, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont exclues de la discussion d'emblée, et des choses qui vont pouvoir être discutées. C'est justement ce que nous dit Steiner après. Dans cette organisation de l'économie, le travailleur ne peut arriver à son droit, mais seulement par le démembrement de l'ensemble des rapports de droit de la vie de l'économie et le transfert. Alors non, le transfert dans ce qui est. Alors, oui. Non, c'est pas ça. J'ai été trop vite parce qu'il ne le dit pas là. Dans cette donc je finis quand même. Donc le droit du travail seul le met en mesure de conclure vraiment un contrat libre. Dans cette organisation de l'économie, le travailleur ne peut arriver à son droit, mais seulement par le démembrement de l'ensemble des rapports de droit de la vie de l'économie et leur transfert dans ce qui a à entrer à la place de l'État. Alors là, c'est un peu compliqué parce que il y avait probablement quand même une forme de droit du travail, mais qui était création de la vie économique à l'époque de Steiner. C'est-à-dire c'était des accords probablement ou entre patrons ou ou des choses négociées. Mais là, il faut que ça sorte de l'économie. Et que ça aille dans ce qui a à entrer à la place de l'État. J'aime bien la formule, parce que du coup, le suspense est entier, parce que là, il nous laisse entendre que l'État change complètement de... C'est quelque chose d'autre qui va se mettre à la place, quoi. Enfin, on peut le comprendre comme ça.
Je pense que c'était plutôt déjà à l'époque... il y avait deux choses. Il y avait des contrats qui étaient faits par l'économie, par le paternalisme industriel, c'est-à-dire que c'était une sorte de générosité du monde de l'entreprise. Mais déjà à cette époque, l'époque de Steiner, l'État commençait déjà à limiter le temps de travail, par exemple.
Par exemple, oui.
Ou la sécurité.
Oui, alors donc là, il a vraiment l'air d'aller vraiment dans ce sens-là aussi, lui. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve après ? Alors, là, il y a un facteur individuel, personnel et contenu dans la vie de l'économie. Et ce facteur individuel, c'est la somme des besoins humains. Alors, c'est intéressant parce que c'est facteur individuel et ensuite il parle de somme des besoins humains. La phrase est curieuse, mais bon, elle est comme ça. C'est-à-dire que ce facteur individuel, quelque part, devient la somme des besoins humains dans la vie de l'économie, ça devient ça, quoi. Alors que dans d'autres endroits, on va voir que c'est différent. Quand on parle de vie de l'esprit, le facteur individuel, il a une autre coloration que là, quoi. Mais disons que ce qu'il y a de facteur individuel dans l'économie, c'est la somme des besoins humains.
C'est la somme des besoins humains.
Voilà. Alors c'est une formule, je ne sais pas ce
oui,
que...
C'est
tu vois.
C'est pour pouvoir avoir la possibilité de travailler.
Oui, oui, enfin...
Donc,
là, il est en train de nous dire que dans la vie économique, il y a un facteur individuel quand même.
Oui, bien sûr.
Ouais. Non, non, mais... Parce qu'il y a d'autres endroits, il nous dit le contraire. Vous verrez, ouais. Ce n'est pas difficile de considérer, n'est-ce pas, que la somme des besoins humains ferait de la vie sociale une sorte de machine. Donc, un facteur individuel est contenu dans la vie de l'économie, c'est la somme des besoins. Ce n'est pas difficile de considérer, n'est-ce pas, que la somme des besoins humains ferait de la vie sociale une sorte de machine. Si l'on voulait régler les besoins de l'individu d'une manière ou d'une autre.
Les besoins de l'individu ?
Ouais.
Bah oui, c'est
dire que c'est, oui, c'est,
oui, ça ne peut pas venir à l'extérieur. C'est bien que de l'individu, c'est besoin.
Ben, je suis presque à me demander si il n'était pas en train de nous dire si cette histoire de somme des besoins humains, c'est le fait que il s'agit peut-être pas pour l'économie de régler les besoins individuels, mais de régler la question de la somme des besoins.
Oui, c'est pour ça que c'est étonnant qu'il parle de facteur individuel.
Mais oui, justement.
Parce que parler d'une machine, c'est plutôt...
Ben si, parce que c'est quand même un moteur. Alors, si le moteur a besoin d'huile, on met de l'huile. Mais c'est... Est-ce qu'il n'y a que l'être humain même qui peut donner ses besoins ? Alors, je le comprends.
Alors bon, ce n'est pas difficile de considérer, n'est-ce pas, que la somme des besoins humains dont il vient de parler ferait de la vie sociale une sorte de machine si l'on voulait régler les besoins de l'individu d'une manière ou d'une autre.
Ben voilà, ça peut être réglé.
Ah oui, 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 on pourrait dire, oui, 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 peut-être. Alors maintenant la question c'est régler, qu'est-ce qu'on entend par régler ? Régler, est-ce que c'est régler dans le sens satisfaire
non,
ou c'est régler dans le sens de réguler
déterminer.
Ou déterminer. Oui, ça, ouais, c'est vrai, on peut l'entendre des deux manières. Là, il faudrait,
ah oui,
voilà.
Faudrait
alors, il continue encore en disant, à cause de cela, vous trouvez aussi dans la façon de voir socialiste et déjà exposée distinctement chez Marx, que dans un véritable système commun socialiste, une normalisation, une régulation des besoins de l'individu ne devrait pas avoir lieu. C'est Steiner qui nous apprend qu'on se fait une représentation fausse de Marx, parce que Steiner, lui, il dit que chez Marx, il y a déjà quelque chose de cet ordre-là, que ça ne saurait avoir lieu, cette espèce de nivellement ou de normalisation ou de régulation des besoins. Ouais, voilà, mais bon. Donc là, Alors ensuite, il y a une phrase qui a l'air de rien comme ça, mais que je vous donner quand même aussi, parce que c'est fondamental pour la compréhension de la vision de l'économie de Rudolf Steiner. Tout ce qui fait la vie de l'économie repose donc, ou devrait reposer, sur prestation et contre-prestation. Contre-prestation. Alors, ce n'est pas la prestation qu'on reçoit comme les allocations familiales dont il s'agit. C'est le fait de fournir quelque chose à autrui, c'est-à-dire un produit qu'on va fournir à autrui. Ça doit être compensé par le fait qu'on va se voir fournir à soi-même quelque chose en contrepartie. Hein, c'est cette idée-là. Prestation et contre-prestation. C'est un truc qu'on rencontre souvent quand on s'attelle à comprendre ce que Steiner dit sur ces questions et on bute dessus parce que c'est pas, ça ne nous est pas courant de le poser comme ça. Cette notion de prestation contre-prestation. Semblerait. Mais les problèmes qu'on a avec ça dans d'autres sphères de la vie sociale, par exemple dans la vie de l'esprit ou comme ça, hein ? C'est pas grave. Vient probablement du fait qu'on a une mauvaise représentation de la façon dont on distingue les domaines. Parce que le problème principal qu'on a, c'est qu'on a une représentation des domaines qui est matérielle, alors qu'en fait, pour Steiner, c'est la plupart du temps des processus, des fonctions organiques. C'est-à-dire que... mais ça, on y viendra après. Hein, je veux dire, c'est prévu. C'est l'idée qu'on se dit, aller par exemple dans une école ou dans n'importe quelle institution, il y a un endroit où c'est la vie de l'esprit, il y a un endroit où c'est la vie de droit, et il y a un endroit où c'est la vie économique. Et ça, ça n'existe pas chez Steiner en réalité. On ne le trouve pas chez Steiner.
Mais c'est ce que tu nous avais dit sur la vie économique.
Ouais, mais on le répète partout. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ont fait leur métier hein, de conseil en entreprise ou en institution, etc., construit complètement sur cette idée que dans toute institution, toute association, toute entreprise, il y a une partie spirituelle, il y a une partie juridique, il y a une partie économique, à l'intérieur de... Alors que chez Steiner, on trouve pas ça. C'est juste une façon de l'interpréter. Mais ça n'existe pas chez Steiner, cette idée-là. Il y a même un passage que je vous lirai tout à l'heure, où il dit expressément que c'est de l'ordre de la lubie.
Pardon.
Et en plus, on n'a pas d'excuses en France. C'est une traduction qui est pas récente, hein. Oui, c'est même en français depuis longtemps. Donc, voilà.
Mais ça vient de cet
Hollandais
là.
Ouais, je le s'attribue souvent à Liv Good, mais il y a probablement pas que lui. Hein. C'est toute une époque qui a vu les choses comme ça, quoi. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors justement, pour revenir à cette histoire de prestation et de contre-prestation, de cela vient aujourd'hui à l'expression dans les revendications des masses populaires qu'à l'avenir, il n'y aura plus la possibilité que l'on satisfasse ses besoins à partir des prestations de la population travailleuse, sans que celle-ci obtienne une contre-prestation. La population travailleuse. Alors, je répète. À l'avenir, il n'y aura plus la possibilité que l'on satisfasse ses besoins à partir des prestations de la population travailleuse, sans que celle-ci, la population travailleuse, obtienne une contre-prestation.
Mais pourquoi il y a l'avenir?
Ben parce que parce qu'il considère probablement qu'à son époque c'était pas le cas.
Il y avait pas de salaire, ça alors.
Mais ça, la contre-prestation, la plupart du temps, c'est de l'argent.
Mais c'est justement ça le problème. Eh oui. C'est ça qui nous complique les choses. C'est parce que par prestation et contre-prestation, Steiner ne parle pas du tout d'un rapport salarial.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'on se défait. Parce que pour lui, le rapport salarial, c'est qu'on achète la force de travail. On n'est pas dans un rapport de prestation et contre-prestation.
Oui, mais quand l'épicier te vend une baguette, il te donne une prestation, c'est la baguette, et la contre-prestation, c'est les 2 euros ou l'euro que tu vas lui donner en échange.
Eh ben non.
Si.
Non, justement pas. Justement pas. C'est justement pour ça que j'ai insisté. Cette notion de prestation et contre-prestation ne se...
Il va lui donner un...
On pourrait presque dire que c'est une façon moderne de parler de troc, mais moderne.
Ça
n'a pas
de
valeur. C'est-à-dire que l'argent soit éventuellement un outil de mesure ou un représentant abstrait de la prestation, peut-être, mais c'est pas, quand tu dis l'échange d'une baguette contre de l'argent... C'est pas un échange de prestations contre une autre prestation. C'est bien un échange de prestations contre un argent représentant d'une prestation. C'est pas la même chose. Quand lui il parle de prestations et contre-prestations, il parle bien de prestations. C'est-à-dire d'un processus où un individu ou un groupe d'individus a fourni quelque chose, mais quelque chose de réel qui va pouvoir satisfaire un besoin. Et en échange de cette prestation-là, en face doit venir une prestation équivalente.
Et c'est ça.
Eh bien, c'est l'idée du troc, finalement, quand même.
Que mais... Par exemple, les selles. Tu connais les selles? Par exemple, tu échanges un cours de guitare.
Non, je sais.
Contre... garder tes enfants.
Mais c'est pas ça.
Par exemple.
Ça, c'est déjà
oui.
Terminé, ça.
Sauf.
C'est libre ?
Non, c'est pas libre, parce que tu dois quelque chose.
Exactement.
Mais là aussi, c'est bien ce qu'il dit. Là, lui, ce qui lui pose même problème, apparemment, c'est que ça, lui, il considère que la... comment ? Il est pudique, hein, il dit à l'avenir il n'y aura plus la possibilité que l'on satisfasse ses besoins à partir des prestations de la population travailleuse. Alors de qui il parle, hein, à ton avis? Il y a donc des gens qui satisfont leurs besoins à partir des prestations qui sont apportées par la population travailleuse. Prestations. Voilà. Sans que celle-ci, la population travailleuse, obtienne une contre-prestation. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de dire qu'il y en a qui reçoivent une prestation, ils satisfont leurs besoins avec, mais que la population travailleuse ne reçoit pas de contre-prestation. Elle reçoit peut-être un salaire, mais pas une contre-prestation.
Oui, ben, c'est comme ça que les grandes fortunes bourgeoises et toutes les fortunes se sont reconstituées.
C'est
ce qui permet aussi le pouvoir de domination des
patriarches. On va voir. Mais disons que voilà, c'est juste. Là, on est dans des termes qui ont une valeur technique, hein, cette prestation. Alors, on doit être dans la clarté là-dessus vis-à-vis de soi. Que dans la vie de l'économie, il en va toujours des conditions concrètes. Donc, des conditions naturelles de la sorte de métier, du travail, de la prestation. Alors, parce qu'en plus, dans cette prestation, moi, j'ai souvent l'impression que, on a eu ce débat avec Marc l'autre soir, est-ce que la prestation de service, on connaît le terme prestation de service, hein, aujourd'hui, souvent, d'ailleurs, quand on lit la littérature de triarticulation, il est souvent question de marchandises et de prestations de service. Mais chez Steiner, prestation de service, ça n'existe pas. Il parle que de prestations. Et ces prestations, elles finissent toujours dans une marchandise, apparemment, pour Steiner. Dans un produit, dans quelque chose de produit. Avec la question qui vient, mais que peu de gens se posent, mais il y en a quand même quelques-uns qui se la posent, c'est, mais pourquoi diable parle-t-il pas, lui, de prestations de service? Mais on se demande si là, on n'est pas dans les prestations de service avec le problème d'une confusion entre des choses qui sont de l'ordre de la vie de l'esprit et des choses qui sont de l'ordre de la vie de l'économie. Et que c'est une façon, disons, parce qu'aujourd'hui, on a aussi tendance à dire, par exemple, qu'une heure de classe d'un professeur, c'est une prestation de service. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui cherche à tout transformer en marchandise, y compris. Et le concept de prestation de service, il est très commode pour ça.
Oui, parce que quelque part, là, il parle. Prestation contre prestation, c'est que pour l'économie.
Oui, c'est
donc ça veut dire que ça ne concerne que des marchandises.
Absolument.
Matérielles.
Des produits. Parce que j'ai l'impression que dans prestation, il y a quand même l'idée qu'il y a un produit à la clé.
Voilà, par exemple.
C'est comme si l'agglomérait. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que dans prestation, il agglomère l'acte, l'effort, enfin, pour pas dire le travail, mais parce que c'est pas, on sait que c'est pas ça non plus. Disons l'activité qui amène à quelque chose qui va être consommable, qui va être la marchandise en fait. C'est pas, quand il parle de marchandise, c'est clair que c'est la marchandise, c'est-à-dire que c'est le produit fini, c'est le produit qui est là. Alors que dans la prestation, il y a comme s'il y avait un peu la traînée de la comète, on pourrait dire. Hein. Leistung.
Le problème, François, c'est que, par exemple, pour l'exemple d'un livre, tu as la prestation marchandise qui est le bouquin réalisé, et tu as toute la prestation intellectuelle qu'il a fallu pour écrire ce livre.
Ouais. Et celle-là, elle n'est clairement pas une prestation de service.
Enfin, Steiner, cette partie de la marchandise, ce n'est pas une prestation.
Ouais.
C'est en fait un don. C'est un don, c'est-à-dire que ça ne demande pas une contre-prestation, cette partie-là.
Ouais, sauf que je me demande s'il n'y a pas encore une autre façon de prendre ça, c'est-à-dire que je me demande si quand même le fait d'écrire un livre ou de faire une œuvre d'art n'est pas quand même une prestation pour Steiner, et qui appelle une contre-prestation. Mais
pour le livre, pour la partie.
Non, même pour la partie purement, même le prêtre qui fait. Il dit ça à un endroit, et c'est là que c'est difficile. Il dit ça que pour le professeur, c'est clair qu'il y a parce qu'il a fourni une prestation à la communauté, il a droit à une contre-prestation.
D'accord, mais alors ça c'est.
Mais c'est pas par la marchandise dans le cas présent. Mais ça, on est justement sur cette question qu'on n'a encore pas résolue, ni entre nous, ni. Enfin, je sais pas si quelqu'un est au clair là-dessus. Enfin, il y a des façons différentes de voir, quoi. Mais ça reste un peu.
La prestation peut être différente. C'est-à-dire, professeur qui donne sa prestation, c'est sa vie, même l'ouvrier, il vit pendant qu'il produit, pendant qu'il fait sa classe. Donc, l'environnement doit pouvoir lui permettre de vivre.
C'est ça, c'est ça. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ça peut varier.
Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ça peut varier. C'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être de l'argent.
Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout pour l'instant pour moi. Quelle graduation il y a entre la marchandise, le produit. Alors le produit et la marchandise, on sait. Le produit, c'est l'aboutissement d'un processus de production. Et c'est au moment où ça rentre sur le marché, enfin où c'est offert, où c'est mis à disposition, que ça devient une marchandise. Voilà. Donc là, ok, la distinction entre produit et marchandise, ok. Mais où est la prestation là-dedans? Parce qu'elle en fait partie de cette affaire-là, la prestation. Est-ce que la prestation, c'est ce qui est juste avant le produit? Mais il ne parle pas de travail. Il parle de prestation.
C'est
Leistung.
Hein?
Leistung.
Leistung.
Maintenant, c'est
Leistung. Leistung. Ouais,
Leistung.
Leistung gegen
Leistung. C'est pas tout à fait.
Parce que en arrière-plan, il y a la notion de comment. Et il y a aussi la question du prix derrière.
Oui, alors justement, on peut seulement gérer ou faire l'économie quand on établit des rapports entre les différentes sortes de prestations.
Ah. Des rapports ?
Donc il y a différentes sortes de prestations.
Ouais. Quand on établit des rapports entre les différentes sortes de prestations. Et là, derrière, se cache peut-être la question du prix. Le prix étant l'aboutissement de ou ce qui traduit ce rapport entre prestations et contre-prestations, entre des prestations de nature différente.
L'évaluation de la valeur de cette chose.
Non, parce qu'après, il y a encore le problème de la valeur. La valeur et le prix. Ah, mon Dieu. On n'est pas encore au clair non plus là-dessus, déjà entre nous pour l'instant. Hein. Voilà. Mais disons que ouais, là on peut supposer qu'il y a quand même cette notion de prix derrière, mais en tout cas l'idée là, qui est simplement formulée, c'est on peut seulement gérer ou faire l'économie quand on établit des rapports entre les différentes sortes de prestations.
Faire l'économie.
Ouais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'économie que dans la mesure où on arrive à établir des rapports entre des prestations de sortes différentes.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire, moi je te fais la prestation où je te fournis des carottes et toi tu viens avec des choux, quoi. Alors, si maintenant, alors il le dit quelque part, si maintenant on regarde le chou et la carotte, franchement, comment on fait, quoi? Parce qu'un chou ne ressemble pas du tout à une carotte, quoi. Alors, sur quelle base on arrive à établir un rapport entre le chou et la carotte?
Oui, mais on peut d'ailleurs...
La prestation n'est pas la même, on est d'accord.
Si je te donne des carottes et que tu me donnes un cours d'anglais, comment?
Parce que voilà,
dans le cours
voilà.
D'anglais, il y a plus... Parce que dans la carotte, c'est le ciel, c'est le soleil, c'est le
voilà.
Travail, mais quand même...
Voilà, sauf que là, moi j'ai pris un exemple où on avait deux marchandises potentielles, quoi. On avait deux marchandises potentielles.
J'ai marché dessus.
Ah, tu as marché dessus.
Voilà. Bon.
C'est la chaleur.
Je peux demander comme ça.
Alors, 19h22... Quand même, déjà. On va pas arriver au bout, hein. Alors, un contrat est toujours limité d'une certaine façon. Lorsque des prestations ne seront plus réalisées, alors il n'a plus de sens. Alors il perd sa valeur. Alors là, on voit arriver notre contrat. Un contrat est toujours limité d'une certaine façon. Lorsque des prestations ne seront plus réalisées, alors il n'a plus de sens. Alors il perd sa valeur. Là-dessus repose toute la vie de l'économie.
Oui, c'est-à-dire que si tu fais un contrat et que après que les choses ont abouti...
C'est-à-dire que si le contrat c'est « livre-moi tant de baguettes pour telle heure », une fois que les baguettes sont livrées,
il n'y a plus de contrat.
Il est accompli, il est fini. Hein, d'accord ? Voilà. Ensuite, maintenant, on arrive à la vie de droit. La vie de droit repose sur quelque chose de fondamentalement autre. Elle repose sur ce que, de manière démocratique, sont trouvées toutes les mesures par lesquelles chaque humain est égal à chaque autre en rapport avec les droits humains. Au droit humain appartient aussi le droit du travail. Pour cela, chaque être humain devenu majeur peut intervenir. Chaque main qui est devenu majeur peut prendre part, soit directement, par exemple, par référendum, ou indirectement, par choix ou par élection, respectivement, par une représentation, c'est encore une autre façon, une représentation de peuple, à l'établissement des droits qui ont à régner entre humains égaux. À cause de cela règne sur le sol politique, de l'État ou du droit, non le contrat, mais la loi. C'est-à-dire que, là, il est en train de différencier la loi par rapport au contrat. Des lois régleront dans l'avenir, par exemple, aussi les conditions ou les rapports de travail.
Des lois.
Des lois. Ainsi seront établies par des lois le temps, la mesure et la façon du travail, pendant que ce qui sera à fournir à l'intérieur du temps de travail, fixé et convenu légalement, sera réglé par des contrats à l'intérieur du corps de l'économie.
Voilà, donc c'est ce qu'est en train de faire Macron. C'est-à-dire que Macron, il est en train... Parce que la loi s'est occupée des contrats. C'est-à-dire que la loi voulait tout gérer au niveau de l'économie. Et donc, du coup, les entreprises, elles étaient toujours bloquées,
coincées.
Et donc, Macron, il veut...
Mais non, c'est pas ça, puisqu'il est question de définir par entreprise, éventuellement, le temps de travail. Alors que là, c'est exactement pas ça.
Non,
parce que lui, il parle d'un temps de travail maximum et d'un temps de travail minimum. Mais il dit que, par exemple, en fonction des types d'activités, par exemple, si tu es infirmière ou si tu es agriculteur, le temps de travail ne sera pas le même, parce que ça dépend de...
Non. Là, pour Steiner, c'est clair. Ainsi, seront établis par des lois le temps... Alors, je laisse de côté la mesure et la façon du travail, hein, pour simplifier le temps. Pendant que ce qui sera fourni à l'intérieur du temps de travail, donc qui aura été fixé préalablement... Donc, fixé, convenu légalement, sera réglé par des contrats à l'intérieur du corps de l'économie. C'est-à-dire que le temps est fixé à l'extérieur, et ce qui reste à fixer, c'est qu'est-ce que je fais dans ce temps-là.
Oui, mais ailleurs, il parle bien d'un temps minimum et d'un temps maximum.
Oui, mais c'est pas de ça qu'il s'agit là, sur le principe.
Parce qu'en France, on a 35 heures, et tout le monde doit travailler 35 heures. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour certaines entreprises, travailler 35 heures, ça n'a pas de sens.
Ben oui. Et alors, quand tu commences à toucher à l'intérieur de l'entreprise au fait que ça va être moins ou que ça va être plus, tu te substitues à la tâche de l'État de droit et de la vie démocratique.
Ça dépend comment ils considèrent la gestion du temps de travail. Si c'est un temps de travail légal, le même pour tous, ou est-ce que c'est une fourchette?
Mais peu importe.
Peu importe. Ça change tout, hein.
Peu importe. À ce moment-là, si on trouve, on peut se dire que si on trouve qu'il faut une fourchette, ça, c'est à la vie de droit et à la vie démocratique de dire, bon, alors on admet l'idée que ça peut être entre temps et temps. Et que 35, c'est pas adapté, mais qu'il faut entre 30 et 40. Voilà. C'est la loi qui doit le dire. Là, le problème, c'est qu'on est parti sur un truc où apparemment, c'est quelque chose qui va se faire au cas par cas, en fonction de négociations qui ne concerneront que certains, et pas les autres, et pas tout le monde.
Ouais, sauf que...
Alors, c'est pas la même chose, tu comprends? Je sais pas.
Comprendre que Tanner, justement, lui, il définissait un minimum et un maximum. C'est aussi pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que si les gens ils travaillent 50 heures par semaine, etc., ils peuvent tomber malades, il peut y avoir des problèmes de santé, de sécurité.
Oui.
Ils sont trop fatigués, donc du coup, ils vont se faire mal.
Il en a parlé de ça, je te dis, on parle de la loi.
Mais depuis le début, la
question du minimum et du maximum, il faudra qu'on regarde, parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a un peu quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas de ça qu'il est question.
Non, c'est pas de ça.
Là, il dit bien que... Que ça soit un horaire fixe, une durée fixe pour tout le monde ou une fourchette, c'est une tâche qui se fait en dehors de l'économie. C'est pas quelque chose qui se fait. Et ça, c'est très clair.
Si la loi définit une fourchette.
Ah oui, mais
ensuite chaque entreprise.
Alors on verra le projet de Macron. Est-ce que ça va consister à changer la durée du travail dans une fourchette et après à laisser la liberté à l'intérieur de la fourchette? On verra.
De toute façon, le droit européen impose qu'on ne peut pas travailler plus de 45 heures par semaine. C'est le droit européen. Donc, maintenant, on ne pourra pas aller au-delà de ça.
Oui, il faut regarder comment ça va être foutu exactement. Quoi. Mais disons...
Ça met l'ouvrier à la merci du patron.
Non, parce que
En fait, le problème principal qui se dégage là, c'est qu'en réalité, ça crée une concurrence entre les entreprises qui est reportée sur la pression qui sera exercée sur les travailleurs. Parce que, évidemment, t'imagines bien que quand dans une entreprise, on arrivera par une manière ou par une autre à obtenir des travailleurs qu'on travaille, 5 heures de plus, il est clair que dans l'entreprise en face, qui est concurrente, on se démerdera pour y arriver aussi. Et ça sera la course à l'échalote. Là, ce coup-ci, nous, c'est pas 5, c'est 6. C'est ça qui inquiète les gens. Et quelque part, voilà. Et ça, c'est exactement, à mon avis, ce que Steiner veut éviter quand il dit qu'il veut pas. Il y a les passages où il dit que ça nous tire forcément, soit dans l'animal, soit dans le mécanique, quoi.
Dans l'animal.
Ouais, l'économie, c'est sa tendance normale, puisque c'est une question de satisfaire les besoins, quoi.
Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y avait
S'il n'y a rien pour tempérer ça, c'est clair
c'est
que
pour ça.
C'est
pour ça qu'il y avait les conventions collectives qui répondaient
à. Là, on est plus sur des choses. C'est effectivement la question de savoir. Mais c'est vrai que cette question de fourchette, il faut qu'on la regarde une fois plus précisément, quoi. Hein, et puis.
Elle me paraît plus cohérente par rapport à l'état d'esprit de Steiner de façon globale sur la profession que cette interprétation que tu viens de faire là.
Ouais, mais c'est ce qu'il dit en.
Oui, mais il y a la lettre et l'esprit.
Ouais, non, mais d'accord, mais c'est ce qu'il dit. Mais il y en a d'autres, hein, tu vas voir. On est en juin 19, voilà, Stuttgart, voilà, qui présente ça comme ça. Alors on va voir. On était dans ce rapport de prestation et là on est toujours. Il est en train de passer à la loi, quoi. Hein. Il la reprend sur cette histoire de travail, mais après, des lois régleront dans l'avenir l'ensemble à l'intérieur du corps de l'économie. Bon, alors, comment il le dit positivement? Pendant que ce qui sera fourni sera à fournir à l'intérieur du temps de travail fixé ou convenu légalement, sera réglé par des contrats à l'intérieur du corps de l'économie.
Hein?
Donc, apparemment, il n'a pas l'air de dire qu'on fixe en quoi que ce soit dans l'économie le temps, mais par contre, ce qui fait l'objet d'un contrat après, c'est ce qu'on y fait dans ce temps, quoi.
Là, il reste en général.
Non, parce qu'il y a un endroit. Tu peux t'entêter, mais c'est pas un problème. Ça fait partie du jeu. Mais le truc, c'est qu'il dit quand même très clairement à un autre endroit que quand l'économie dans son ensemble se trouve dans une situation, par exemple, de catastrophe ou de naturelle ou comme ça, et puis qu'il faut plus de temps de travail, elle n'a pas d'autre ressource que de s'adresser à la sphère de droit. Que la sphère de droit prenne une décision à ce sujet-là.
Ça
veut quand même dire que celui qui a l'attribut de fixer la durée, alors fourchette ou pas, peu importe, c'est la sphère de droit.
Voilà.
D'accord. Mais moi, je te parle de la fourchette.
Oui, mais.
Dans les contrats, on peut aussi définir le temps de travail.
Non, mais alors la question, c'est de savoir si maintenant on va être amené à statuer sur une fourchette dans la sphère de droit qui laisse ensuite une possibilité, une certaine marge de manœuvre dans la vie économique. Mais c'est pas comme ça pour l'instant, moi, que j'ai entendu ce qui était présenté. Pour l'instant. Hein? Dans ce qu'on en dit, mais le problème c'est qu'on sait pas exactement non plus, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dits comme ça. On a même publié des trucs qui soi-disant venaient de chez Macron et puis qui s'avèrent pas forcément être. Même les syndicats disent non, ça peut pas venir de chez Macron. Alors il y a de la désinformation dans l'air, tu vois. Enfin, je veux dire maintenant, voilà. Alors on va voir. Hein, je veux dire, il faut. Mais disons que pour l'instant, moi, c'est après qu'il y ait une fourchette, probablement, et après que des choses se fassent, parce que l'individu choisit. Enfin, c'est difficile parce qu'il faut aussi voir que là, on est dans un truc où il n'y a pas de, on est dans un échange, enfin, on n'est plus dans un rapport de, comment, c'est, il n'y a plus, enfin, aujourd'hui le débat il est parasité par le fait que t'es payé à l'heure.
Non, aujourd'hui t'es pas payé à l'heure, t'es pas payé.
Bah si, dans la plupart des contrats de travail aujourd'hui, dans la un salarié, il est payé au nombre d'heures de travail et il y a un tarif horaire. Hein, c'est comme ça que c'est le SMIG et tout le reste est construit comme ça. Hein. C'est le nombre d'heures qui détermine la rémunération.
En fait, c'est pas le nombre d'heures que tu travailles. C'est qu'il y a un délai légal national, 35 heures. Et après, tu négocies ton salaire.
Oui, mais sur un taux horaire. Sur un taux horaire.
Pas forcément.
Bah,
ça dépend des métiers.
Mais si, tu prends la moindre fiche de paye, c'est tant d'heures, tant de l'heure, égale, total. La moindre feuille de paye, elle est comme ça. Hein.
Oui.
Et c'est la loi. Si elle n'est pas faite comme ça, tu peux toujours aller te rhabiller. Hein. Le mec, il va au prud'homme et puis tu...
Oui, mais c'est une manière de découper pour l'administration. Mais dans la réalité, c'est plus comme autrefois où tu étais payé à l'horaire, à la tâche ou à l'heure. Là, c'est mensualisé.
Mais ça ne change rien au fond.
Si.
Non, ça ne change rien au fond.
Ça change parce que Ça change, c'est dans le sens où tu n'es pas, il n'y a pas un rapport direct entre l'heure et le...
Bah, et les gens qui pointent, là, qui mettent leur...
Qu'est-ce que tu crois?
Et les gens qui mettent leur carte, là, dans les assurances... Dans
bien entendu, n'importe où.
Il faut qu'ils fassent leur heure à un quart d'heure près.
C'est pour ça qu'ils essayent même de prendre la douche 20 minutes avant.
Oui, et puis même... Non.
Quand ils ont droit à la douche.
Ils laissent leur carte dans le truc pour ne pas décarter. Ils vont bouffer pendant une heure, ils reviennent et ils trichent. Enfin, ouais, de toute façon, ils mettent toujours leur carte.
Non, mais c'est qu'après, il y a un autre truc, c'est que comme la loi prévoit les heures supplémentaires, mais qui sont d'autres tarifs, si maintenant tu dois travailler plus longtemps, 35 heures, par exemple 40 heures... Les heures supplémentaires sont validées comme heures supplémentaires, c'est-à-dire avec un autre tarif.
Ça a du sens.
Oui, non, mais ça ne change rien. Là, au niveau où ça se situe, cette histoire-là, là, qu'on est en train de voir, on n'est pas dans ces petits détails-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus fondamental, quoi. Hein. C'est. Alors, la question, c'est que. Je ne pense pas que quand lui présente les choses comme elles devraient devenir. Rattache un revenu à cette durée.
Oui, c'est pas lié.
Parce que d'ailleurs, ça vient après. Ah oui, de toute façon, il le dit après. Alors. Ouais, donc là, on a vu, là, c'était pour nous dire un peu la différence entre la loi et puis le contrat. Et là, il les a situés uniquement dans cette histoire. Alors, c'est vrai que ça nous rend les choses un peu difficiles, parce que comme il avait parlé de cette notion du contrat par rapport au travail, etc., il nous reparle de la loi dans ce contexte-là. Donc, ça rend les choses un peu... Voilà. On va trouver peut-être autre chose plus loin. Alors, après, de toute autre sorte, est à nouveau l'avis de l'esprit. Parce que là, maintenant, il parle du troisième. L'avis de l'esprit repose sur ce qu'elle est... Quand elle, l'humanité peut développer ses capacités pour la vie de l'État et de l'économie. Hein? Mais cela est seulement possible quand on crée dans la vie de l'esprit le fondement pour ce qu'on amène à évolution, à déploiement, à la mesure de la chose, les facultés humaines se développant, doivent se développer, qui ne sont donc pas simplement données à l'humain par la naissance, mais devront être en premier déployées. Bon, alors là, c'est moi je l'avais souligné parce que il y a quand même cette notion que bon, on amène peut-être quelque chose qui est très fort chez Steiner à beaucoup d'endroits, mais là, il insiste beaucoup sur le fait que ça doit être aussi accueilli et développé, quoi. Hein. Ce serait une erreur qu'on croit que les facultés spirituelles et aussi les physiques, ces dernières sont donc au fond de même valeur que les spirituelles, c'est-à-dire que ça soit des capacités physiques ou spirituelles. C'est la même chose, pourrait être connu et soigné de la même manière que les choses étatiques et économiques. Donc, il dit là qu'on ne peut pas les traiter de la même façon que les choses étatiques et économiques.
Donc, est-ce qu'on peut pas...
On peut pas traiter les questions de faculté de la même façon. Ça, on le connaît, on est tous... Ça, c'est pas... Ce qui, par exemple, s'étend sur les questions d'investissement, ne peut reposer ni sur des contrats, quoique, ni sur des contrats. Tu ne trouves pas encore quelque chose, là, qui pourrait marcher par contrat dans l'éducation ?
Dans l'éducation ?
Ou dans le livre, on peut commander un bouquin.
Non, ou même, est-ce qu'on sait, par exemple, alors ça voudrait dire que quand on, alors, il n'y aurait pas un contrat tacite quand on amène un enfant dans une école ? Il est en train de nous dire que non. Ni sur des lois ou décrets.
Mais peut-être que dans l'école, il y a quand même d'autres domaines que c'est pas entièrement la vie de...
Ben oui, mais c'est bien pour ça qu'on a découpé l'école en trois pour que ça marche. Mais c'est pas comme ça qu'il le voit, lui. C'est ce que ça a permis, effectivement. Quand on s'est mis à découper les institutions en trois comme ça, ça réglait le problème. T'avais pas besoin de te poser ce genre de questions. Moi, je me pose ce genre de questions parce que je prends acte du fait qu'il le voit pas comme ça. Lui, il découpe pas une institution en trois.
Pas forcément en trois, mais il y a quand même.
Non.
Pas purement.
Non. Pas pour ce qu'il veut dire. C'est encore un problème de la représentation qu'on se fait des trois domaines. Parce qu'on les a matérialisés alors qu'il faut les garder dans le processus. Et dans le processus, il y a maladie si un processus commence à faire autre chose que ce que, pourquoi il est fait. Alors que dans la matérialité des choses, tu peux éventuellement avoir... Dans une tête, tu as les trois processus.
Évidemment.
Ok. Hein? Mais là, on parle des processus. Steiner parle des processus. Et un processus de contrat dans la vie de l'esprit, ça le fait pas. C'est ce qu'il est en train de te dire. De la même façon qu'une loi ou un décret ne le fait pas non plus. Ce n'est pas à sa place.
Pourquoi tu voudrais faire un contrat dans l'éducation ?
Ben c'est ce qu'on peut, on peut se dire qu'il y a un contrat. Je suis sûr qu'en réunion de parents, il y en a de temps en temps qui montent sur leur grand chemin en disant « mais on a un contrat moral » ou je ne sais pas quoi. Tu vois.
Mais c'est peut-être parce que mais c'est peut-être un contrat moral, je ne sais pas. De toute façon, si on amène...
En plus, on paye un décollage. D'ailleurs, on signe peut-être même des contrats aujourd'hui dans une école.
Il y a une prestation, en effet, de...
Alors,
oui, non, mais voilà, quoi. Bon.
Surtout qu'il y a échange d'argent, alors...
Oui, mais justement, dans le
système actuel, on est obligé.
Dans la manière dont c'est mêlé aujourd'hui, sans qu'on ait la moindre conscience que c'est peut-être à distinguer, c'est clair. Voilà. Mais lui, justement, son job, là, c'est de nous rendre attentifs à ce qu'il faudrait distinguer, quoi.
C'est-à-dire que lui, dans l'éducation, il voudrait qu'il n'y ait que des conseils. C'est-à-dire que tu arrives avec ton enfant et tu reçois des conseils du prof, ou l'enfant reçoit des conseils du prof.
Non,
alors,
mais,
peut-être, ouais.
Je sais pas. De toute façon, comment ça ferait marcher, il faudrait alors payer le créateur de loi qui, à ce moment-là, prenne en charge l'école et qu'à ce moment-là, c'est une affaire de confiance. On amène son...
Alors là, il y a quelque chose d'autre aussi. Alors maintenant, on est dans un autre. Hein, là, dans un autre. Là, on est en 1920, juin 1920, donc un an après. Qu'est-ce qui a donc fait au fond, jusqu'en nos jours, la structure de notre organisme social ? L'esprit ? Point d'interrogation. Non, je pense que ce n'est pas l'esprit. Si par exemple j'hérite de mon père un grand domaine agricole, cela est autre chose que l'esprit. C'est un contexte, un rapport naturel, là est le sang. De cette position dépend à nouveau comment il se tient dans la vie spirituelle. Enfin, bon, il y a une phrase entre. Hein. C'est-à-dire comment chacun se tient dans la vie spirituelle est dépendant de cette position, pour Steiner. C'est-à-dire ce qu'on a reçu en termes d'héritage, par exemple.
Comment on se tient par rapport à l'héritage ?
Non, c'est le fait... On n'aura pas la même vie. On se tient pas de la même façon à la vie de l'esprit, à la vie spirituelle, là, selon qu'on est riche ou pauvre, qu'on a reçu un bien agricole ou pas, etc. Ouais. Et il dit ensuite, au fond, l'humanité sent cela en rapport avec la vie spirituelle tout d'abord comme quelque chose qui ne peut plus être supporté. C'est-à-dire que lui, il décrit, il est dans une époque où apparemment c'est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'avant on trouvait normal que les individus soient placés d'une certaine manière dans la vie de l'esprit par leur origine, mais qui vient... lui, il dit que c'est pas l'esprit, hein, il dit que c'est le sang.
Le sang, c'est quoi ?
Le sang, l'héritage, enfin...
C'est quoi ?
Alors, le sang... Mais c'est la notion d'hérédité, hein, c'est la notion de. Mais jusque dans ce lien à un bien qu'on hérite, quoi. Alors là, c'est dit clairement après cette phrase-là. Il dit, il peut s'assimiler certains contenus d'éducation purement parce qu'il est placé dans une certaine position sociale qui dépend de vieilles conditions qui proviennent en grande partie des lignages de sang. Au fond, l'humanité sent cela en rapport avec la vie spirituelle, tout d'abord comme quelque chose qui ne peut plus être supporté. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, ça ne lui posait pas de problème. Mais
c'est normal qu'on soit passé dans cette situation.
Ouais, mais il dit que ça, c'est quelque chose qui ne peut plus être supporté. Quoi. Mm-hmm. L'humanité sent instinctivement, à la place de ce qui, venant du passé, qui sera déterminé par le sang, l'esprit doit parler avec... L'esprit doit parler dans les institutions sociales à l'avenir. C'est-à-dire que les institutions sociales ne doivent plus être simplement construites sur ce qui vient par l'hérédité ou par le sang, mais directement. Hein. L'esprit doit parler dans les institutions sociales à l'avenir.
En fonction des facultés.
Et alors là, il y a une petite phrase qui va dans le même sens, c'est quand il parle de la vie de l'esprit ne reste pas un appendice de l'État provenant des vieilles conquêtes du sang. Alors là, il y a la notion de conquête en plus. Voilà. Alors, voyons maintenant vers le deuxième membre de l'organisme social, le membre de droit ou d'État. Là, nous rentrons déjà dans quelque chose qui, dans une certaine mesure, ne dépend pas autant de ce qui est en dehors du monde.
Attends, mais tu es toujours dans la vie de l'esprit ou tu
Non, dis, maintenant, voilà. Là, il va nous parler le membre du droit ou d'État. Là, nous rentrons déjà dans quelque chose qui ne dépend pas autant de ce qui est en dehors du monde comme la vie de l'esprit.
Donc, c'est la vie entre les hommes, là, qui
est important. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ce qui est en dehors du monde,
c'est
Außerweltliche. Comme la vie de l'esprit. Ça, c'est en dehors du monde. Alors que la vie de droit et d'État, ça, c'est quelque chose qui n'est pas autant en dehors du monde.
C'est ce qu'il y a dans le monde.
Bah oui, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie de l'esprit, elle est en dehors, plus ou moins, hein, dans ce qu'il en dit là. Hein. Mais très cher présent, jusque dans les conditions factuelles, notre organisme social entier est donc aussi loin qu'agit en lui le spirituel, attaché à ce qui apparaît avec chaque nouvelle génération, c'est-à-dire c'est même le monde en dehors du monde, mais c'est le prénatal en plus. Hein? Oui, ce qui avec chaque nouvel être humain, de profondeur indéterminée, introduit de nouvelles forces dans l'organisme social. C'est-à-dire c'est la source dont se nourrit ou qui abreuve l'organisme social qui est en dehors du monde, elle. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Voilà. Voilà, c'est ça. Prenez le moment présent actuel. Avez-vous la permission, n'importe comment, à partir des conditions du temps actuel, quand vous le pensez sincèrement avec l'humanité, instituer une quelconque organisation qui détermine d'une certaine manière la vie en commun des humains? Est-ce qu'on peut... Non, vous n'auriez pas la permission, car avec chaque nouvel être humain individuel seront nées de profondeurs inconnues, de nouvelles forces que nous avons à les éduquer et nous avons à attendre ce qu'elles introduisent dans la vie. Nous n'avons pas à tyranniser et dogmatiser par des lois existantes, il nous y voilà, ou une organisation déjà existante, ce qui est porté dans la vie par les talents spirituels. Nous devons accueillir sans prévention ce qui nous est introduit par les mondes spirituels. Nous n'avons pas la permission de tyranniser et dogmatiser par ce qui est déjà là. Donc, pour lui, la loi, c'est forcément quelque chose qui est derrière, qui est une gêne si on l'applique à ce domaine-là. Hein, d'accord ? À cause de cela, nous avons besoin d'un tel membre de l'organisme social qui œuvre entièrement à partir de la liberté, naissant toujours nouvelle dans l'humanité par les talents humains. Et ça, c'est la sphère de la vie de l'esprit, quoi. Hein? Donc, voilà, il vient plus ou moins d'expliquer pourquoi la loi peut pas. Voilà. Après, il continue. Le deuxième membre de l'organisme social, la vie étatique juridique, cela est déjà un peu moins dépendant de ce qui rentre là des mondes spirituels. Car se manifeste, nous savons, dans le domaine, dans la vie du droit, de la vie de l'État, l'être humain devenu majeur. Et, mes très chers présents, quand nous sommes devenus majeurs, nous a déjà en fait saisi une grosse part de médiocrité. Vous avez entendu ? Rendu 20 piges, 21 piges à l'époque, on est déjà, voilà. Là, le nivellement de la philistrosité nous a tapé dans la nuque dans une certaine mesure. Hein, quand on arrive à la majorité, c'est déjà un peu...
C'est pas un scoop, tout ça.
Voilà. Et aussi loin que, comme humain devenu majeur, nous sommes tous pareils, nous sommes déjà, cela ne doit pas du tout être dit dans un sens grave, n'est-ce pas? Dans un certain sens, un peu dans les œillères de la philistrosité. Nous sommes donc ce qu'on peut régler par des lois.
Bon. Voilà. C'était en quelle année que tu as dit ça?
Ça, c'est celui-là, il est en... Alors, c'est aussi une façon curieuse de nous présenter la loi, hein. 16 juin 1920.
Ah oui, c'est ça, hein.
Voilà. Hein, donc, voilà, ça c'est les soirées à l'Union de la Triarticulation, ça.
Ah oui,
ouais.
À Berlin?
Non, à Stuttgart.
À Stuttgart.
Ouais. Voilà. Alors après, maintenant, qu'est-ce que j'avais après? Ah, oui. Mais parce que là surgit quelque chose qui ne doit pas être renouvelé continuellement en regard des actuels besoins de conscience de l'humanité. Alors là, on est encore dans la loi. Il parle encore de cette philistinité, hein, de ce côté. Oui, philistreuse. Mais c'était aussi, il y a des lexiques qui disent que c'est apprendre comme mentalité petit bourgeois, quoi. Hein. Voilà, que c'était la façon dont on parlait à l'époque. Ils avaient une culture biblique un peu luthérienne, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc oui, c'est le code. Alors, oui, en gros, c'est une autre façon d'en parler, hein, cette sphère-là des lois de la vie de droit. C'est quelque chose qui ne doit pas être renouvelé continuellement au regard des actuels besoins de conscience de l'humanité. Mm-hmm. Ça n'a pas les mêmes exigences que, voilà, c'est cette partie-là de nous, voilà. Avec les temps nouveaux, les rapports de vie de droit et d'État peuvent seulement être réglés par des lois sur un sol démocratique. Alors là, c'est peut-être pour souligner le démocratique. Et il finit avec cette toute petite phrase qui sont quand même intéressante, qui est quand même, les lois ne sont pas des connaissances.
Bah,
c'est bien. Ouais. Mais c'est, voilà. Mais les lois ne sont pas des connaissances. Oui, c'est peut-être évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors, les lois sont données, plus loin. Les lois seront données afin que la vie étatique politique, la vie de droit, puisse exister.
Voilà.
Pour qu'elle puisse exister. Mais on doit attendre jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'agir dans le sens d'une loi. Alors, il doit en premier se soucier de cette loi.
Et quand il parle de loi, il ne parle jamais de nation aussi. C'est toujours vie étatique,
ouais,
et vie juridique.
C'est vrai, tu as raison, oui. Ça me dit rien.
Le sol démocratique, mais jamais la nation.
C'est juste. Je ne l'avais pas remarqué, mais oui, ça me paraît juste. Et ça me paraît correspondre à ce que j'avais compris jusqu'à présent. Mais...
C'est-à-dire que la nation, c'est quelque chose qui est lié à la vie de l'esprit.
Oui, ouais. Effectivement, ça n'intervient pas dans ces moments-là. Il faudrait vérifier, j'y ferai plus attention, mais je crois que tu as raison. Effectivement, je n'avais pas vu ça. Ouais.
Et quand en France, le gouvernement parle toujours de la France comme nation, il se mêle de choses qui...
Ah oui, ça c'est clair.
Il devrait parler que de l'État ou de la loi, mais pas de la France. La France,
c'est une autre nation.
C'est autre chose. C'est l'affaire de la société civile.
Ouais, sauf qu'il y a un problème, c'est que la France est quand même le créateur du concept même d'État-nation.
Oui, mais...
Ah oui, non, mais c'est nous qui l'avons inventé, chers amis.
Oui.
Donc, on a un lien quand même très particulier à la chose.
Oui, c'est parce qu'on a un lien...
C'est pas étonnant.
Oui, on a un lien particulièrement avec l'État, en France.
Oui, oui.
Et donc, on a associé...
Non, mais juste... Oui, non, mais justement, ce concept d'État-nation, c'est quelque chose qui est très lié, pas seulement à État, État-nation. Il me semble, il faudra vérifier. Mais
c'est parce qu'il y a eu, le nivellement par la langue.
Mais il y a la Révolution, c'est la Révolution française qui, par contre, enfonce le clou du point de vue nation.
Oui, aussi, oui.
Louis XIV, lui, il s'occupe de faire un État central. Mais c'est la Révolution française qui le lie au national. À cause de la République, alors à cause de liberté, égalité, fraternité, à cause de Valmy, à cause de... Eh oui. Je pense, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Les autres peuples n'ont pas connu ça. Nous, on est restés quand même. Après, c'est amusant de voir comment ça s'est transformé quand on l'a exporté, quand on l'a offert au Nouveau Monde. Mais bon, mais n'empêche que à la Révolution, ça s'entache sérieusement de national, l'État, en tant que république, du coup. Puis, la République, c'est aussi la forme choisie par les anthroposophes pour éventuellement administrer la vie de l'esprit.
La forme choisie par les anthroposophes.
L'ERS, non pas démocratique, mais républicain.
Ah, ouais.
Waouh ! Eh oui, mais là, tu vois, cette affinité à la nation en tant que vie de l'esprit, quelque part, tu vois comment elle est aussi là, puisque ça devient, la République devient un mode de gouvernance propre à la vie de l'esprit. Alors, c'est peut-être des noces illégitimes, mais tu vois le pont que je fais. La France, par sa révolution, associe à ce qui était d'abord seulement un État central à la Louis XIV, associe une dimension nationale plus fortement à cause du fait qu'elle fonde une république. Ouais. Et qu'il y a des citoyens. C'est-à-dire qu'on sort de l'ancien État où il y avait trois castes. Hein? Ça, c'est la seule vraie prestation, c'est qu'on a aboli l'ordre de droit ancien qui distinguait entre trois catégories, trois castes, qui sont, Schleiner s'est suffisamment exprimé pour dire que la triarticulation n'était pas la ressucée des trois anciens États platoniciens. Hein? Mais à la Révolution française, on en était là. Et ce que la Révolution française a fait, c'est effectivement l'égalité de tous devant la loi, ce qui a créé le citoyen. Et c'est devenu la nation, enfin l'État-nation, à travers la République, qui portait cette valeur d'égalité. Et de liberté. Mais...
Il va falloir clore, parce que bientôt
arriver... Ouais. Alors là, on arrive dans le truc, c'est que la loi, bref, il y a toujours quelque chose là, la loi, mais en premier pour le cas qui peut éventuellement survenir. C'est toujours de l'essence de l'éventualité qui est disponible, le casus eventualis. C'est quelque chose qui doit toujours reposer au fondement de la loi. On doit attendre jusqu'à ce qu'on puisse faire quelque chose avec la loi. La loi peut être là. Lorsqu'elle n'interfère pas dans ma sphère, alors la loi ne m'intéresse pas. Alors par rapport au contrat, c'est intéressant parce que le contrat, il est toujours fait dans un but bien précis, pour une durée déterminée, quantifiée, etc. Alors que la loi, elle est faite en général au cas où.
C'est ça, quand on en a besoin.
Ouais, alors ça peut être sur le fait qu'on a observé que c'est peut-être nécessaire, mais en soi, elle n'a pas de... Elle est quelque chose qui ne rentre en action que quand on l'enfreint ou quand on va dans une certaine direction. Voilà, c'est ce qui fait observer, quoi.
Qu'est-ce qui va se passer ici, ce soir ? Il y a quelque chose ?
Il y a une soirée, une fête.
Alors après, il continue en disant, parce qu'on finit l'extrait, quoi. Hein, chez le membre économique, on ne s'en sort pas avec la loi. Car ça ne suffit pas de donner quelque peu des lois là-dessus. Si de tel ou tel rapport, ou cela, ou ceci, devrait être livré d'une certaine manière. Là, on ne peut pas travailler à partir d'éventualités. Là, s'introduit un troisième à côté de la connaissance, vie de l'esprit, et à côté de la loi, c'est le contrat. Le contrat défini qui est conclu entre ceux qui gèrent l'économie, les corporations et les associations, qui ne travaillent pas comme la loi à partir d'éventualités, mais qui travaillent l'être tout précisément accompli. Ils travaillent ce qui doit tout précisément être accompli, quoi.
Ah oui.
L'être, c'est pas très heureux, quoi. C'est le... L'être du contrat qui est disponible, basé non sur l'éventualité, mais sur l'engagement. Parce que dans le contrat, il y a une dimension qu'il n'y a pas dans la loi, c'est l'engagement. Et d'ailleurs, quand on veut faire des lois, c'est marrant, ça me vient bien à l'esprit à l'instant, quand on veut faire des lois qui engagent, le droit opposable au logement, par exemple, on voit très vite, ça mène, c'est-à-dire qu'en fait, il ne se réalise rien derrière réellement. Voilà. Donc voilà, et là, nous pouvons donc dire, nous avons là trois points de vue évocateurs, donc loi, contrat, conseils à partir desquels nous pouvons comprendre comment l'essence de ces trois membres doit être. Voilà. Donc on a fait en gros la moitié, c'est normal, hein. Et comme demain matin, éventuellement, on peut continuer pour ceux que ça intéresse, on peut éventuellement continuer ou simplement échanger déjà, voir un peu plus loin ce que ces trois notions de conseil commandement, hein, d'abord, et puis ensuite de loi et de... Parce qu'après, il y a la question aussi du... La différence, il y a un endroit où il parle aussi de la différence entre un commandement et une loi.
Ah oui.
Ben oui, parce que le commandement... La loi, c'est quand même quelque chose qui est concocté ensemble.
Qui est
fait ensemble, qui est convenu ensemble dans l'État.
Ah oui.
C'est la notion même de droit. Le commandement, lui, il est à une époque où la notion même de droit et même la notion de travail n'existent pas encore. La loi, elle commence à surgir au moment où surgit le droit et le travail. Et ça, c'est dans Rome. C'est-à-dire, Rome, c'est le moment où on a déjà surmonté le racisme grec. Parce que le grec, il était citoyen. Mais en fait, il était pas vraiment citoyen. Il était habitant d'Athènes ou de Sparte ou etc. Puis les autres, c'était pas des vrais humains, quoi. Enfin, c'était. Bon. Alors qu'à Rome, tu pouvais avoir une autre race ou une autre origine, mais tu pouvais devenir citoyen. On est déjà dans autre chose. C'est-à-dire que le racisme latent, enfin, est surmonté. On sait un pas de plus. Et c'est le moment où en fait naît vraiment la citoyenneté. Tout le monde peut devenir citoyen. Enfin. Mais c'est aussi au moment où, donc c'est le moment où se crée quelque chose, où le droit lui-même commence, quoi, en tant que droit. Avant, on était dans le commandement, on était dans le truc qui s'imposait à travers la vie de l'esprit, on pourrait dire, à travers le divin, quoi.
On verra ça demain.
Voilà. Donc la question, c'est qui sera là demain pour qu'on sache si on le maintient.
Ben, y a la possibilité de faire la suite sous la forme d'un atelier d'échange. Okay, 9h30, midi.
Ah, le matin.
Mais on peut aussi arrêter avant, hein, si vous voulez arrêter, faire plus court. Hein.
Travail.
Samedi matin.
Et toi ?
Ah ouais, je vais venir, mais...
Il y aura Gabriel aussi qui viendrait.
Ah, toi, pourquoi il n'était pas là ?
Du coup, on serait quatre, si toi tu peux pas. Hein.
Non, je travaille à la Bourgogne.
Bah oui, tu as ouvert la Bourgogne ouverte. Ouais.
Et moi, je dirais même que c'est vraiment quelque chose que... Quand ça devient... Quand ça devient intéressant, on a envie de recommencer. Parce que maintenant, je peux comprendre. On a envie de recommencer, on a envie vraiment de re-entendre.
Oui.
Parce que moi,
c'est pour ça qu'on a fait le truc, mais bon, on ne savait pas non plus comment trop faire. Hein.
J'ai pas lu ça, et je trouve que c'est vraiment très important. Sur quoi ? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quoi.
Ah oui, c'est
ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait, exactement. C'est vraiment de... Moi, je m'en reviens quand même.
Alors, tu as vu, Rousta, dans les mémorandums, on est dans quelque chose d'assez général, comme ça.
Oui.
Tu ne savais pas quoi en faire. Et là, on est déjà descendu un peu plus bas, tu vois.
Enfin, oui, tout à fait.
Mais ça reste extérieur.
Oui.
Et puis après, la suite, normalement, c'est que j'aurais parlé aussi de trois formes de jugement. La façon dont on se fait un jugement sur quelque chose.
Mm-hmm.
C'est pas la même chose dans la vie de l'esprit, dans la vie de droit, dans la vie économique.
Ça, c'est bien. Allez.
Alors ça, c'est encore une couche plus intérieure. Et alors après, on peut encore aller plus loin, parce qu'on trouve aussi chez Steiner, après ces trucs extérieurs de loi, contrat, conseil, donc après la question des jugements, il y a encore une autre chose encore plus profonde, c'est le rapport des constituants de l'être humain, corps astral, corps éthérique, je, etc., à l'organisme social. C'est-à-dire, c'est la question comment mes constituants influencent l'organisme social et comment l'organisme social influence mes constituants.
Et tu peux voir ça demain matin.
Et là
si on y arrive, ouais.
Tu vois, mais là, ça manque.
Non, ça, j'ai pas préparé. Parce que ça, c'est, je le dis juste pour que vous sachiez la graduation.
Oui.
Disons que demain, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est reprendre loi, conseil, contrat.
Oui.
Et puis aller jusqu'aux formations de jugement. Et puis prendre ensuite des exemples de ce qui était prévu ce soir. J'avais la possibilité de vous proposer soit de voir dans qu'est-ce qui se passe concrètement quand on mélange vie de l'esprit et vie économique. Alors ça, c'est l'exemple de la question du capital et du travail. Ou alors quand on mélange vie de droit et vie économique. Alors ça, c'est la question de la propriété et de l'argent. Ou alors, le plus difficile pour moi, parce que c'est moins visible, enfin c'est moins mesurable, c'est quand on fait la confusion vie de droit, vie de l'esprit, les incidences que ça a réciproquement. C'est-à-dire quand la vie de l'esprit domine sur la vie de droit à certains endroits, ou quand la vie de droit est transposée dans ses habitudes, dans ce qui devrait être la vie de l'esprit. Et ça, par exemple, à l'exemple d'une école. On peut, par exemple, montrer comment des processus de maladie se mettent en place dans une école, parce que on laisse la sphère de droit qui doit être à l'extérieur. C'est-à-dire l'école est dans la sphère de droit globale, mais quand on laisse rentrer la sphère de droit dominée, non, dans l'école elle-même, pas que dans la classe. Oui, parce que ça c'est le découpage. Hein. Quand la classe, on peut dire, ça serait la vie de l'esprit. L'administration de l'école, ça serait la vie de droit. Et puis les finances, ça serait la vie économique. Mais ça, c'est justement, Scheiner ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Ça, c'est une invention pure et simple qui a été construite après. Et ça a des conséquences énormes dans la façon d'aborder ces questions-là. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont travaillé sur ces bases-là n'ont fait que des conneries. Ils ont aussi donné des bons conseils et ils ont aidé certainement à résoudre certains problèmes, tu vois. Parce que en toile de fond, ils avaient quand même la notion que le type de rapport était quand même pas le même.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc ils avaient quand même une notion du processus, tu vois. Mais par contre, ça a aussi, on a aussi construit des structurations qui sont pathologisantes, quoi. Et qui s'avère ne pas fonctionner en fait par la suite.
Ce qui mériterait aussi plus de schémas, quoi.
Ouais, bah oui.
Plus de schémas pour qu'on puisse mieux se relier.
Mais ça c'est le problème. Hein. Une conférence peut pas présenter la triarticulation, c'est pas possible. Oh, hein. Il faut travailler, quoi.
Bon, ben je te remercie bien et puis peut-être pour ces 10 heures de nouveau, on recommence.
En fait, le projet que je voulais présenter,
c'était déjà dans le programme hein, depuis 3 mois, hein, 2 mois.
Ah oui,
c'était le programme de la branche.
Le programme de la branche, t'étais membre.
Ah. Oui, mais moi j'ai pas de programme moi.
Comment
tu veux? Tu le reçois par courrier?
Non, je t'assure, je ne reçois rien du tout.
Faut mettre ton adresse, faire mettre ton adresse.
Membre de la branche.
Oui, mais j'ai rien, j'ai pas de.
Si, tu vas le recevoir, normalement.
Mais non, j'ai pas.
Merci à toi. Voilà.
En fait, la proposition, ça aurait été à partir de l'année prochaine, déjà de retrouver une fois à l'automne.
Ah, c'est ça, ton gris-gris.